As the day winds down, don't let allergies disrupt your night. Add Aspire Allergy and Sinus. We're here to bring you peace and relief. Our expert team offers personalized allergy testing and advanced treatments so you can enjoy restful nights free from the struggles of congestion and discomfort. Make the evenings yours again. Visit AspireAllergy.com to schedule an appointment and experience a life where every breath is serene. Breathe easy. Sleep better. Aspire Allergy, your pathway to peaceful nights and brighter mornings. AspireAllergy.com.
We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC.
J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous?
Oui, ça va très bien et toi?
Mais ça va très bien. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que nos invités, on va les avoir au téléphone. Le premier depuis une route quelque part en France et l'autre depuis Los Angeles.
Wow.
Et épisode spécial pour une autre raison. Cet épisode, figurez-vous, est le tout dernier de We Love TFTC. Il y a eu plus de 50 épisodes en tout et on va s'arrêter avec celui-là. Sachez qu'on va tout faire pour vous retrouver très vite. Les audiences n'ont jamais été aussi bonnes que ces derniers mois.
Ça fait vraiment plaisir. Merci
ouais, franchement, merci.
Merci à tous ceux qui écoutent et merci à tous ceux qui laissent des messages très souvent, qui sont en attente du podcast. Alors, on en profite pour vous remercier. Maintenant, place à l'épisode du jour. Nous recevons aujourd'hui Christophe Maratier et Guillaume Delouche. On va commencer avec... Christophe, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Bonsoir. Je m'appelle donc Christophe Maratier, comme vous avez dit. Je m'occupe des armes et des uniformes pour le cinéma depuis un certain nombre d'années. On a participé à pas mal de films, puis j'ai travaillé aussi beaucoup avec Guillaume, qui m'a invité à le rejoindre sur certains films.
À plusieurs milliers de kilomètres de là, nous avons Guillaume Delouche qui est à Los Angeles. Bonjour Guillaume.
Bonjour. Oui, donc je m'appelle Guillaume Delouche. Je suis chef accessoiriste et armurier. Je suis depuis également un certain nombre d'années et je suis installé à Los Angeles, en Californie.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film sur lequel tu as travaillé, Christophe, Léon. Réalisé par Luc Besson et sorti en 1994, Léon raconte l'histoire d'un tueur à gages qui va accueillir chez lui par la force des choses une jeune fille de 12 ans qui vient de voir sa famille se faire assassiner. Interprétant là un rôle sensiblement similaire à celui qu'il avait dans Nikita, Jean Reno crève l'écran et se fait connaître aux États-Unis à partir de ce film-là. Film qui cartonne auprès des critiques et du box-office. Alors Guillaume, on s'est rencontrés il y a quelques temps à Los Angeles, il y a 3-4 semaines à peu près. Tu nous as fait visiter l'endroit où tu travailles qui est les ISS Studios. C'était incroyable, une sorte de hangar de 1000 mètres carrés avec plein de props. Il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne où tu nous fais cette visite guidée. C'était un souvenir incroyable pour Guillaume et moi. Ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va... vous poser quelques questions. Déjà, aujourd'hui, on parle d'un film qui est Léon. Je sais que Christophe a travaillé dessus. Et ma première question est la suivante. Quel est, Christophe, ton tout premier souvenir lié au film Léon, toi qui as travaillé dessus?
Enfin, mon tout premier souvenir de Léon, j'ai un souvenir assez flash du casting, en fait, quand on était déjà en répétition. Donc, le tournage n'avait pas commencé, mais on était en répétition au studio d'Épinay. Et puis il y a pas mal de gens qui venaient pour faire l'équipe d'intervention du SWAT, les gars qui viennent essayer de déloger Léon dans son appartement.
Mmh.
Et je m'en souviens, c'était assez flash parce qu'il y a un garçon qui était venu avec une petite voiture de sport et s'était pas entendu avec Luc Besson, il était parti foudrage dans la ligne droite d'Épinay en faisant crisser les pneus. Mmh. Et puis c'est là aussi où j'ai rencontré Samy Nasseri, parce que je pense que peu de gens le savent, mais avant de faire Taxi, Samy il avait été approché par Luc sur divers projets et il était venu et il était dans le groupe d'intervention. Il était encore très peu connu et c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et c'est drôle, mais quand on parle de Léon, je repense à ce moment-là, au casting à Épinay, quand on était tous en train de préparer et tout ça. Voilà, oui, je crois que le premier souvenir que j'ai de Léon, ce serait ça, quoi.
Et c'est marrant que tu me dises ça, Christophe, parce que j'avais préparé des petites infos rares sur Léon et elle était dedans. Effectivement, Sami Nasseri a fait partie du SWAT, donc on le voit pas, il est sous un uniforme, il me semble.
Oh bah, je suis désolé.
Mais justement, c'est super. Justement, c'est super parce que tu l'as raconté toi-même. Et en fait, c'est comme ça que Luc Besson l'a découvert et après lui a donné le rôle pour Taxi, finalement, le rôle principal.
Exactement comme ça. Tout à fait, c'est ça. Et l'autre comédien dont le nom m'échappe et que j'ai revu après dans quelques pubs, eh ben, lui, par contre, était pas content d'être cagoulé et il était reparti, comme je vous dis, en faisant crisser les pneus de sa petite voiture de sport. Et il aurait peut-être dû rester parce que Samy, voilà ce qu'il a fait après, quoi.
C'est vrai. Guillaume, toi qui avais vu le film Léon à l'époque, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à ce film?
Alors, mon tout premier souvenir lié à Léon, c'était tout d'abord les accessoires. J'étais déjà accessoiriste à l'époque. Et puis, je connaissais déjà le nom de Christophe Maratier, que j'allais rencontrer au téléphone, je ne savais pas encore, quelques années plus tard pour un gros film historique. Et donc, le choix des armes était c'était spécial. C'était un réalisateur français, mais un film qui se passe aux États-Unis avec des armes très uniques pour cerner le personnage de Léon. Donc, et ça m'avait tout de suite... Je suis d'ailleurs retourné voir le film une deuxième fois en salle parce que le travail accessoire était époustouflant, comme tous les films de Besson, d'ailleurs.
Christophe, est-ce que tu as une scène préférée dans Léon? Quand tu repenses à Léon, la scène que tu préfères?
Moi, c'est ce que je préfère parce que c'est un souvenir de tournage aussi. C'est quand on l'a fait, quoi. C'est la scène de l'appartement dont on parlait là il y a quelques instants.
Incroyable scène.
C'est vrai que le couloir, déjà, moi, j'étais ébahi par la technique de Luc qui déjà avait imaginé. Je sais pas si les gens le savent ou s'il y a eu des making-of de ça, mais c'était à Épinay, tout le couloir avec la mitrailleuse qui tirait une roquette. Il y avait un système de coulisses sous le décor, au-dessus du décor, avec des contrepoids à chaque bout, qui faisait que la caméra était glinguée sur un câble, au même titre que la roquette qui partait, elle, sur un câble propulsé par de l'air. Et on pouvait varier les vitesses. Enfin, c'était assez impressionnant. Luc, c'était le premier en France qui jouait avec des skateboards pour faire bouger la caméra ou qui faisait ce genre de montage très sophistiqué pour justement bénéficier à fond d'un effet avec la roquette. Et puis tout l'appartement, et puis la scène des lasers, où j'ai appris énormément de choses à ce moment-là, parce que quand nous, on avait des vrais lasers pour les armes, et quand j'ai montré ça à Luc dans le décor avec la fumée et tout ce qu'elle est, c'était assez impressionnant à l'œil, mais pas assez pour lui. Donc en fait, il m'a expliqué que pour que ce soit vraiment impressionnant et que on soit tendu pour le personnage, fallait que ces lasers soient super présents et très impressionnants. Et du coup, il a fait venir des lasers de boîte de nuit. Et en 93, c'était assez moderne, quoi. Et donc, c'était des lasers très, très puissants qui faisaient des faisceaux bien plus larges que les vrais lasers d'armes. Et c'est ça qui balaye l'appartement de Léon. Et donc, quand je vois cette séquence, forcément, je repense à tout ça. Et c'était un moment tellement fort et tellement intense pour nous au niveau ambition professionnel, parce que il y avait beaucoup de demandes de Luc, quoi. Et c'était un peu chaud pour nous. Donc, on était très concentrés. Et voilà. Donc, c'est un grand souvenir.
Très bien. Guillaume, toi qui avais vu le film deux fois à l'époque, est-ce que tu as une scène préférée dans Léon?
Oui, c'est la scène de l'assaut, évidemment. La scène d'ouverture, la première scène, quand les gardes du corps du personnage qui s'appelle Le Gros dans le film disent qu'il y a quelqu'un en bas et il est sérieux, c'est probablement ma scène préférée.
Très bien.
Parce qu'il y a une très très bonne ambiance.
Guillaume Brouze. Quel est ton tout premier souvenir?
Parce qu'il y a deux Guillaume, c'est un peu compliqué.
Guillaume Brouze, quel est ton premier souvenir de Léon?
Eh ben, mon premier souvenir, ça a été, je pense, un ami de mes parents qui l'avait enregistré. Nous, on n'avait pas Canal et ils avaient enregistré le film. Et du coup, je l'ai regardé en cassette, il me semble, à l'époque. Et j'étais jeune ado et j'avais trouvé ça hyper bien. Et surtout, je me disais, je me le suis redit en le revoyant, je me disais, c'est fou quand même de se dire que c'est quand même un film français de ce niveau-là, quoi. Où tu te dis, mais attends, mais c'est un film français. Alors que, tu sais, on était bercé par tous ces trucs d'action qu'on dit tout le temps, tu vois, mais ce truc-là, je me suis dit, waouh, ouais, d'accord, c'est vraiment la même chose, quoi. Sauf que c'est Jean Reno et Luc Besson.
Figure-toi que c'est ce que j'avais noté dans mes notes. En fait, à l'époque, ce que j'avais ressenti en voyant ce film, c'était la fierté que ce soit un film français.
Ouais, un peu, hein.
Franchement, j'étais fier.
Ouais,
parce qu'il y avait ce truc où, comme tu disais, on avait été biberonné au film d'action américain, et là, je voyais un film qui avait vraiment rien à envier au film américain. Et je me disais, en vrai, cocorico, quoi. Tu sais, j'étais vraiment fier qu'on ait fait un film français comme ça. Et moi, mon premier souvenir de film, pareil que toi, je crois que je l'ai vu en cassette. Et c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit aussi. Ce que j'aimais, c'est que malgré mon jeune âge, qui est sorti en 94, je devais avoir 12 ans, Eh ben, j'arrivais quand même à sentir la patte Besson, parce que moi, j'avais été marqué par Nikita aussi quand j'étais petit. Mmh. Et il y a vraiment une patte Besson dans sa façon de filmer. Et même les gueules. Il choisit des gueules dans ses films à chaque fois, Besson. Mmh. Et avec le recul, il y a un truc assez drôle, parce que j'ai travaillé sur le film avant de préparer les podcasts. Et ben, c'est drôle de se dire que finalement, Jean Reno, il a fait au même moment Les Visiteurs et Léon. C'est-à-dire qu'en fait, il est Godefroy le Hardy et Léon. Vraiment deux rôles complètement différents, et il a tourné ça pratiquement au même moment, parce que Visiteur c'est 93, Léon c'est 94, donc on a le même personnage et c'est vraiment deux rôles complètement différents quoi.
Mais d'ailleurs je me disais ça, c'est marrant d'avoir dû se dire ok, je vais faire un film d'action avec Jean Reno, parce que c'est pas un acteur auquel tu penses en film d'action.
Eh ben on va y venir à la fin, dans les anecdotes aussi. Aurélien, ton premier souvenir de Léon?
Eh ben pareil, je pense que c'est une des premières cassettes vidéo que j'ai achetées moi-même.
Ah ouais.
Enfin, c'était une des premières cassettes. Parce que, bah, pareil, en fait, je pense que Luc Besson, bah, petite fierté, quand je l'ai vraiment découvert au début des années 90, je le mettais au même niveau que les réalisateurs d'action que j'aimais bien, les McTiernan, les John Woo que je commençais à découvrir, et Tarantino, c'était à peu près la même époque, 93-94. Et en fait, j'ai vu Léon beaucoup avant de voir Nikita. Pour moi, Luc Besson, c'était le grand bleu, en fait. Donc, je m'étais pas du tout dit qu'il avait ce côté hyper nerveux, hyper... énervé, je me rappelle de voir très souvent Léon à cette époque. Très amoureux de Nathalie Portman, parce qu'en vrai, j'avais 13 ans, quoi.
Et même.
13-14 ans.
Même l'affiche, elle fait pas française.
Tu vois ce que j'ai dit? Il y a tout le package. Il y a Yellow dedans, donc il y a des fois, il y a des trucs en anglais. Enfin, moi, je comprenais pas trop. Je fais, c'est quoi? J'avais du mal à capter que c'était un film français, en fait. Pour moi, c'était un truc un peu différent.
Tu sais ce qui fait ça aussi un peu, c'est le fait que Jean Reno ne parle pas beaucoup dans le film.
Ouais, aussi. Je sais pas si maintenant c'est. Enfin, les gens ressentent ça maintenant, parce que tu vois. Il y a eu il y a eu plein de films d'action français, tu vois.
Oui, bien sûr.
C'est plus répandu Besson, que nous, les films d'action français, il n'y en avait pas vraiment beaucoup.
Bah, lui, il a inventé un peu ce truc, hein. Enfin,
c'est vrai, il y a Taken, il y a Le Transporteur, tout ça, c'est Besson à la production.
Ouais, voilà. Même Taxi, tu vois, en vrai, il y a aussi ce truc où ils ont inventé un peu un film d'action à la française, ce qui n'existait pas. Là, Léon, c'était un peu un film américain avec des Français dedans et un côté un peu français.
Puis tu vois, je sais pas si j'ai une bêtise, mais j'ai l'impression quand même que Besson, il a installé un truc, parce que j'ai le sentiment que tous les réalisateurs comme Alexandre Aja, etc., finalement, ils se sont servis du chemin qu'a rebattu comme ça Besson avant eux, quoi. Tu vois.
Même les Rivières Pourpres et tout, les Olivier Mégaton, tout ça, Olivier Dahan, ils sont passés par l'école Besson. Au final, quand même, dans les années 80 et au début 90, Besson, c'était un des seuls qui était chaud à amener le cinéma français au même niveau que le cinéma américain en termes d'action, science-fiction.
À fond.
Voilà.
Parce qu'il y a le cinquième élément européen. Tu voulais dire quelque chose, Guillaume?
Non, je me disais, ce qui me faisait, là, en le revoyant aussi, et en fait, il y avait plein de souvenirs qui sont revenus quand je l'ai revu, mais le côté qu'on n'avait pas vraiment aussi en film français, c'est ce côté héros avec un look défini. Tu peux faire un cosplay Léon. C'est-à-dire que t'as le pantalon trop court, l'impair et les lunettes rondes.
Il y a plein de figurines d'ailleurs. Il y a des figurines déjà en mode Mario où c'est genre.
C'est vraiment un héros typique.
Ouais. Surtout, parfois avec Guillaume, on se posait la question et on se dit quelle est la tenue iconique d'un héros au cinéma. Alors, on ne parle pas forcément des tenues d'Indiana Jones, etc., qui sont des tenues qu'on ne peut pas forcément porter dans la rue. Ouais. Et très souvent, on prend en exemple la tenue de Marty McFly. Tu vois.
Ouais.
La tenue de Marty McFly, c'est un truc que tu peux porter dans la rue, c'est juste un jean, une chemise, etc., mais on sent vraiment ce style. Jean Reno, très souvent, tu vois des gens, même à la Fashion Week, hein, tu vois. Des gens qui ont ce style du long manteau, les petites lunettes rondes et le petit bonnet, etc. Ouais. Tu vois,
les bonnets Cousteau un peu.
Exactement. Il y a quelques jours, on recevait les deux abonnés dans le podcast spécial Noël. Et il y avait une question qui était posée par un abonné qui était si vous pouviez changer une fin, ce serait laquelle? J'avais pas pensé à Léon. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu Léon, la fin m'avait marqué, quoi. T'as tellement envie qu'il réussisse, tu vois. T'as tellement envie qu'il s'en sorte.
Surtout que ça passe pas loin quand même.
Ça passe pas loin, tu vois. On voit en gros la lueur du ciel, etc.
C'est incroyable d'ailleurs la scène, pas trop spoiler non plus, mais où il arrive à traverser tous les couloirs, tous les escaliers avec le masque et
tout. C'est génial.
Moi à l'époque ça m'avait marqué.
Ouais,
mais aussi
j'étais là, ouais, il est trop intelligent.
C'est vrai, quand tu notes.
Il est trop fort surtout.
Quand tu notes ce qui se passe vraiment dans le film, il se passe pas énormément de choses en vrai. Tu vois, tout se passe dans le même étage, c'est que des petites scènes. Il se passe pas des trucs de fou, mais il y a beaucoup de trouvailles en termes de réalisation et en termes de visuel en fait. C'était vachement fort, je crois.
Justement, est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué, votre scène préférée dans le film, Guillaume?
Alors moi, c'est pas une scène, mais en le revoyant, c'est un plan. Et même avant de le revoir, je me dis, ouais, c'est maintenant. Et je me rappelais du timing. C'est évidemment ce plan où Gary Oldman il prend une pilule. Et là, il y a un top shot. Il fait une tête méga nerveuse et tout. Et je sais pas pourquoi ce plan. Il y a des plans comme ça. Tu fais,
je l'avais noté évidemment, mais il est incroyable.
Il craque sa nuque en même temps.
Mais c'est même la façon dont il joue aussi.
Mais la façon d'y avoir pensé, c'est-à-dire, il peut prendre une pilule et être de face, et là on part en top shot, et il est comme ça, et ça tue. Je trouve que c'est trop bien.
Aurélien.
Bah, il y a ça, je me rappelle vraiment de cette arrivée de Gary Oldman, je me rappelle même de la musique, et tu sais, il passe le petit rideau là comme ça.
Ouais.
Il est fait flipper et il tue tout le monde dans la
marque. Putain, c'était
là.
Aussi ma scène, le petit rideau de perles.
Ouais, très le petit rideau de perles, très incroyable. Mais sinon, il y en a une autre que je me souviens après d'avoir refait un peu dans ma tête, c'est quand il sonne, quand Nathalie Portman elle sonne.
Ah, et qui regarde à l'œillère.
Qui regarde à l'œillère et tu sais qu'il met son flingue pour savoir où elle est, pour voir si, où est-ce qu'il met son flingue pour savoir s'il tire.
Ah, c'est quand il y a l'autre gars qui vient en fait.
Après, il y a ça.
Ouais, c'est...
Au début, il répond pas, mais
début,
après, il y a une autre
fois. Parce qu'il y a l'autre mec qui est derrière elle, elle sonne, elle veut juste qu'il ouvre. Et en fait, il y a un mec qui dit, il y a une autre petite, et il va devant la porte, et après, il regarde comme ça. C'est trop bien.
Moi, il est là, il est vraiment en train de jauger où est-ce qu'il doit mettre le flingue. Et ça, cette scène m'est revenue trop souvent. Je me disais, mais comment tu fais pour.
Évidemment, vous avez sorti les deux scènes que je voulais sortir. Bon, c'est les deux scènes du film.
Ouais,
mais il y a aussi un truc auquel je pense, là, quand tu me faisais visualiser la scène où il met son flingue comme ça sur la porte. La musique elle colle tellement bien au film. C'est bon, il y a ça arrive souvent des musiques qui collent bien avec le film, mais là vraiment chaque instrument colle avec chaque scène. C'est en fait tout est parfait dans ce film.
Surtout que la musique elle était, je trouve, atypique. Enfin, par rapport à l'époque.
Ouais, beaucoup de percussions, de
ouais, puis des espèces de vagues un peu synthétiseurs, mais pas celles qu'on avait l'habitude d'entendre dans les films américains. Il y avait un côté un peu très original, quoi, très étrange, très différent.
Il y a un truc aussi, tu sais, souvent on avait parlé de ça, des films où on ressent, c'est pas un film où on ressent l'été, mais c'est un film où on ressent la poisse un peu.
Ouais.
Tu vois,
c'est vrai.
Où lui il est transpiré.
La poisse de fin de journée.
En fait, tous les murs de tout l'immeuble et de chez lui et de chez le mec chez qui Nathalie Portman vit, etc., ils sont jaune pisse, tu vois.
Ouais.
Toute la déco, elle est
pisse. Les filtres de l'image sont assez incroyables pour l'époque.
Trop bien.
Alors, Guillaume.
Oui.
Aujourd'hui, on parle de gun. De gros gun.
Exactement.
Ça flingue. Et tu t'es fait un petit plaisir, t'as classé, tu m'as dit en début d'émission, tes 5 guns préférés dans l'histoire du cinéma.
J'ai passé en revue des.
Parce que là,
on est face à des spécialistes.
Ouais, Christophe Maratier et Guillaume Delouche sont là. Ce sont les spécialistes des guns.
Exactement. Et alors, j'ai pensé à un gun. Enfin, le premier gun qui m'est venu, c'est-à-dire que je vais vous dire un gun iconique de l'histoire du cinéma, vous pensez à quoi?
Forcément, il y a le gun de Dirty Harry.
Oui. Mais le premier.
Il y a le minigun de Schwarzy dans Terminator 2, quand il est à la fenêtre. Quoi?
Parce que moi, j'ai pensé direct à Terminator 2, effectivement.
Ouais.
Parce que tu parles de minigun, tu parles de la.
Alors non, je parle pas de son fusil à pompe.
Ah voilà.
Mais je parle de son minigun quand il est à la fenêtre à la fin et qui défonce toutes les voitures
qui
de flics.
Qui n'est pas un fusil à pompe, d'ailleurs, qui est une Winchester 1887, parce que c'est le premier auquel j'ai pensé. Exactement. Inventé par Josh Moses Browning, une légende dans la création d'armes à feu, la Winchester 1887 est un fusil de chasse à répétition qui fonctionne par un mécanisme à levier de sous-garde. Alors là, c'est pour les spécialistes. Hein. Elle est équipée d'un levier placé derrière la détente et l'action du levier, lorsque tiré, éjecte la cartouche et lorsque remis en position, amène une nouvelle cartouche dans la chambre. C'est pour ça que tu as juste à faire ça. Et en fait, sur le tournage, il y en avait 4 différentes, toutes avec des petites modifications, notamment la taille de la crosse et du canon, pour que Arnold Schwarzenegger puisse la recharger facilement en la faisant tourner sur son doigt tout en conduisant une moto. Est-ce que tu connais l'anecdote de ce fusil et de Arnold Schwarzenegger?
Peut-être pas.
Eh ben, figurez-vous qu'il y en avait donc 4 qui étaient sur le plateau et 4 qui étaient donc modifiés pour le tournage. Et entre les prises, il a voulu faire le fameux retournement avec une qui n'était pas modifiée et qui était donc une vraie, qui était très lourde. Et il a failli se péter le doigt, figurez-vous, parce que c'était pas du tout le bon mouvement.
Ok.
Voilà, je vous la donne, c'est une anecdote tavienne ou pas?
Écoute.
Ah bah quand c'est pas lui qui les donne, ça croustille pas. Hein.
Mais tu m'as terminé. J'allais dire qu'elle était géniale.
Ah ben bah voilà, il a failli se péter le doigt.
Bravo.
Voilà. Et James Cameron, parce que j'étais perdu dans ma note. James Cameron a écrit son script avec spécifiquement cette arme en tête, comme toutes les armes du film, une trentaine de modèles différents en tout, pour environ 200 armes sur le set.
Ah ouais.
Un set à gros bras. Notons pour l'anecdote aussi que la Winchester 1887 faisait aussi partie des armes favorites de Clyde Barrow, du célèbre duo de gangsters Bonnie and Clyde, puisqu'elle a été retrouvée dans sa planque après sa mort. Autre film de James Cameron, Aliens, sorti en 1986, dans lequel on voit le
grosse mitraillette là.
Pulse rifle.
Mais attends, petite anecdote.
Oui.
J'ai demandé à ce que ce soit mon cadeau de Noël.
Le pulse rifle.
Bien sûr.
Bien joué.
Parce qu'en fait, le Pulse Rift, il a été réédité en Airsoft.
Et ben
avec le petit. Alors, tu sais, cette mitraillette qu'on voit dans Aliens, il y a le petit chargeur qui défile en numérique.
Oui, bien sûr.
On peut voir les balles, genre 98, 99, machin. Et en fait, tout est refait, sauf que c'est des billes qui sortent. Et j'ai demandé ça pour Noël. Donc, je vais avoir la mitraillette d'Aliens.
Ça fait plaisir, ça.
Ouais, je suis content.
Tu nous mettras ça en photo?
Bah, tu sais ce que je vais faire? Une fois qu'on se voit, t'auras le droit de tirer des billes avec.
Oh, ça fait plaisir. Et donc, le Pulse Rifle, mélange de mitraillette Thompson de la Seconde Guerre mondiale, de Remington 870 et de SPAS 12, est designé par Simon Atherton. Alors voilà, je donne toutes les spécificités parce qu'on est avec des professionnels aujourd'hui. Devenu culte et un modèle pour toute une suite de fusils de science-fiction au cinéma et dans les jeux vidéo. C'est vrai qu'en fait, ce gros machin-là, ça a engendré plein de modèles différents. En fait, c'est devenu un peu la norme des fusils de science-fiction. C'est-à-dire qu'ils devaient être plus gros, etc. Les armes utilisées dans le film sont de vraies armes chargées à blanc, mélange donc de plusieurs fusils agrémentés de pièces métalliques. Ils étaient très lourds à porter, donc plusieurs répliques légères ont été utilisées dans les scènes sans tir. Et pour l'anecdote, Sigourney Weaver était très mal à l'aise du nombre d'armes sur le tournage, puisqu'elle militait en même temps contre le port d'armes. Et du coup, James Cameron, il l'a emmenée dans un stand de tir pour qu'elle s'entraîne, et elle était méga deg. On peut aussi citer...
Excuse-moi, je suis désolé de te couper, Guillaume. Ouais. Est-ce que quelqu'un a déjà tiré avec un vrai gun ici?
Alors, pas avec un vrai gun.
Ah, mais avec quoi?
Mais en fait, mon père, il avait un pistolet à blanc avant, et qui était un peu pareil, ouais. Mais il l'a plus.
Et est-ce que ça vous dirait...
Des canettes.
Si demain, je vous dis, tiens, on est aux États-Unis, je vous emmène dans un stand pour tirer des vraies balles sur des cibles, là. Vous le faites ou pas?
Ouais, mais...
Bah, pourquoi pas?
Ouais, je suis chaud. Pas. Mais après, il y a un truc, je sais pas, les armes, il y a un truc qui me dérange, mais bon... Peut-être parce que ça tue des gens, je sais pas.
Je préfère la bagarre,
ouais, je préfère la bagarre, quoi. Les bourre-pifs. On peut citer aussi dans le même film le M56 Smart Gun. Et j'en parle parce que souvent, on a parlé de ça avec Guillaume Delouche, évidemment, à Los Angeles. Du fait que quand on veut rendre quelque chose, comme il a travaillé sur Men in Black, quand on veut rendre quelque chose futuriste, on part d'une base qu'on a ici. Mmh. Et après, on l'agrémente...
D'une armure.
Ouais, d'une armure ou d'autre chose. Et donc... Le M56, si vous voyez, c'est un des flingues qu'ils ont et qui est monté sur un bras comme un Steadicam.
Dans Men in Black?
Non, dans Aliens.
Ok.
Et c'est un Steadicam de vraie caméra, mais il a été habillé de pièces mécaniques de moto pour l'aspect futuriste. Voilà, c'était une petite anecdote qui me plaisait.
Excellent.
On enchaîne dans un film où on peut voir quantité d'armes, à savoir Die Hard.
Ah oui.
Alors, allez.
8 modèles iconiques différents allant du Beretta. Je m'adresse aux professionnels autour de la table. Du Beretta 92F.
Mais moi, j'adore le Beretta. Je vais dire un truc. Le Beretta, c'est le flingue de Mel Gibson dans L'Arme Fatale.
Et ben, j'y viens. Bon. Excuse-moi, mais bon.
Je vais d'ailleurs essayer de posséder le Beretta.
Du Beretta 92F au Smith & Wesson Model 15 au Eckler & Koch P7M13 de Hans Gruber.
C'est un petit HK.
Exactement. La belle recette pour faire un beau film de Noël, évidemment. Beretta 92F qu'on retrouve dans un autre film qu'on adore ici, L'Arme Fatale.
Bien sûr.
Oui. Évidemment.
Entre parenthèses, tout à l'heure, tu m'as demandé quel était mon gun préféré dans l'histoire du cinéma. Comment j'ai pu oublier ça? Et d'ailleurs, ça se trouve dans ton classement. Tout simplement le meilleur flingue de l'histoire du cinéma, le flingue de Robocop.
Il n'est pas dans le classement.
Ah ouais, il est pas mal.
Mais c'est le meilleur flingue.
Le Desert Eagle un peu stylé là.
Un peu bien gros en plus.
Desert Eagle, c'était un peu à la mode dans les années 90.
Eh ben, je vais vous donner une anecdote pour les spécialistes des armes.
Ah.
Puisque, alors c'est vraiment, j'ai envie de le lire avec la voix des gens qui nous disent sur Twitter.
C'est impossible.
Alors, attention.
Il est en réalité impossible que John McClane porte un Beretta 92F dans le film, puisqu'il n'était pas admis à l'époque d'en porter pour un officier de la police de New York.
Ça, c'est pour les spécialistes, ça.
C'était peut-être son arme privée.
Ah non, donc les vrais flics n'avaient pas le droit d'avoir des Beretta? Et les inspecteurs?
C'était pas celle-là. En tout cas, la police de New York, elle n'avait pas le droit au Beretta.
Ok, d'accord.
C'était un autre type de gun. Et j'avais une anecdote, évidemment, à propos du gun dans Die Hard, mais parce que je pense qu'on a donné toutes les anecdotes qu'on connaissait sur Die Hard. On a déjà parlé plein de fois de Die Hard. Mais Die Hard dans Die Hard.
Mais en vrai, pas de son.
C'est vrai?
On n'a jamais fait de Die Hard en podcast, il me semble. Et on n'a jamais fait de Die Hard en vidéo store.
T'es sûr? Mais comment alors?
Ouais. Parce que juste, on parle tout le temps de ce film.
Quand j'ai dit l'anecdote, j'étais là. Oui, je le savais déjà, mais bon, je vais le redire. Les armes du tournage étaient donc chargées de balles à blanc, modifiées pour faire un maximum de bruit sur le tournage. Et dans une scène, Bruce Willis a tiré trop près de son oreille et a perdu 2/3 de son audition à l'oreille gauche.
Attends, mais dans quoi on en a? Effectivement, j'en ai parlé sur TFTC, mais.
Ouais. On en a parlé déjà.
Je sais plus dans quoi.
Mais on en a parlé de Die Hard.
Peut-être qu'on a fait un vidéo store en fait.
Non, on a fait
T'as
un podcast Die Hard.
On
a parlé de l'Academy Plaza et tout.
Ah mais oui, c'était le podcast de Noël avec les abonnés, non, il me semble.
Ouais, je sais plus.
Ah oui, team en off nous dit oui.
Les mecs sont perdus dans leur podcast, c'est horrible. Bravo, c'était ça. Et du coup, voilà.
50 épisodes. Hein.
Et bref, comment parler d'un flingue au cinéma sans évoquer le Smith & Wesson Model 29? Et vous savez ce que c'est le Smith & Wesson Model 29?
Mais bien sûr, c'était les trucs des cowboys là.
Eh ben, c'est un autre nom, puisque c'est un nom plus commun qu'on connaît tous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de flingues qu'on connaît.
Le Colt.
Le 44 Magnum.
Ah. Oui, c'est Dirty Harry, ça.
Exactement, j'y viens. Rendu célèbre par le film Dirty Harry avec Clint Eastwood en 1971. Revolver sorti en 1955, qualifié à l'époque de revolver le plus puissant du monde, oui. Comme il le dit aussi dans le film, et aussi connu sous l'appellation de 44 Magnum.
D'ailleurs, les nuls en font une vanne très drôle. Ils parodient Dirty Harry. Regardez sur YouTube, Dirty Harry, les nuls. Et en fait, la blague est centrée sur le flingue le plus puissant du monde. Et juste, c'est un truc qui n'a pas de sens. La tige, elle est immense. Flingue et tout. Il y a du mal à le porter. Tout.
Et donc, tellement culte qu'on l'a vu aussi dans Taxi Driver, Fast and Furious 5, Double Détente ou encore Léon, dont on parle aujourd'hui.
Ouais.
Pistolet préféré de Dirty Harry, donc, qui change pourtant de modèle en 1983 pour un pistolet automag. Dans Sudden Impact, le troisième épisode de Dirty Harry, seul épisode de la franchise réalisé par Clint Eastwood et qui a détesté cette arme sur le tournage.
Et
petite
aussi,
anecdote tabzienne,
oui.
En effet, elle n'arrêtait pas de se coincer pendant le tournage. Et il la balançait régulièrement de rage. Mais comme il tournait à Santa Cruz Beach, elle finissait parfois dans l'eau. Et figurez-vous qu'il y avait un plongeur sur le plateau qui était chargé d'aller la chercher, et de la laisser sécher pour avant d'être réutilisée pendant le tournage.
Alors voilà. J'ai une bonne info tabzienne sur Sudden Impact. Alors je crois que c'est dans Sudden Impact. Hein. Mais il me semble que c'est le premier film de Jim Carrey en tant qu'acteur.
Ah bon?
Ouais, dans Dirty Harry.
Il joue un.
Il joue un fou, qui est un mec qui fait de la musique.
Ou quoi, comme d'hab.
Et donc, pour le cinquième pistolet, j'avais choisi un pistolet et pas des moindres, puisque je l'ai choisi à dessein, puisque quelqu'un autour de cette table l'a tenu dans sa main.
Ah.
Il s'agit du pistolet iconique de Jack Sparrow.
Ah bah oui.
Dans Pierre des Caraïbes.
Ah. Oui, alors.
J'ai très peu d'anecdotes là-dessus, puisque. En fait, je pensais qu'on pourrait en parler avec les autres.
Mais il n'a pas bossé sur Pirates des Caraïbes. Non, mais on va vous expliquer ce qui se passe. Voilà. Donc, on était dans les studios d'ISS à Los Angeles avec les deux Guillaume Brousse et Guillaume Delouche. Et en fait, on est entré dans une sorte de coffre-fort comme ça. Et d'ailleurs, avant d'entrer dans le coffre-fort, il nous disait il ne faut pas filmer la porte du coffre-fort, il ne faut pas filmer les toits parce que sinon, les cambrioleurs peuvent comprendre par où passer. Et donc, à l'intérieur de ce coffre-fort, il y a tous les vrais guns, des vrais guns, hein, pas des répliques, hein, des vrais guns, qui ont servi pour les films. Donc, il y a plein de trucs. Il y a effectivement le flingue de Léon à l'intérieur. Il y a les flingues d'Oblivion, de Terminator. Enfin, il y a plein de trucs. Et il y avait le flingue de Jack Sparrow, donc le flingue des Pirates des Caraïbes, que Guillaume Delouche avait entre les mains. Et forcément, moi, je lui ai dit, est-ce que je peux le tenir entre les mains? Parce que moi qui adore les props, je veux pouvoir me dire que je les ai eus dans mes mains. Et il m'a dit oui, il m'a pris en photo, c'était trop bien et tout. Et puis voilà, c'était trop.
Mais
cool,
en fait, ce qui est fou, c'est ça l'intérêt, c'est de se dire que, en fait, ce flingue, si tu le vois dans une brocante, bah tu t'en fous.
Oh, attention.
Non, mais tu vois, tu te dis bon, c'est un flingue de pirate. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est incroyable dans ce truc, et c'est pour ça qu'on aime les props aussi, c'est de se dire bah il a comme s'il avait vu des choses. Tu vois ce que je veux dire? Il a vécu des choses.
Complètement. C'est exactement ça. Et là, pour vous dire, aujourd'hui, j'ai donc je suis venu au podcast avec un blouson. Maman, j'ai raté l'avion 2.
Je suis venu avec un flingue.
un blouson Maman, j'ai raté l'avion 2 qui a donc servi sur le tournage parce que c'était un blouson qui appartenait à un des membres de l'équipe technique. Et là, j'ai ce blouson entre les mains pendant que je vous parle. Et c'est fou de se dire que ce blouson, en 92, je crois que le film a été fait, il a vu le tournage, quoi. Il était là, il était à New York, dehors, il a vu le tournage.
Il est bien conservé, hein.
Ouais, il est bien. Et là, aujourd'hui, il est sur mes épaules. Et c'est ça que j'aime, comme tu dis, Guillaume, avec les props, c'est de se dire que tu possèdes quelque chose, qui était là de façon iconique. Tu vois, j'ai la chance d'avoir la chemise de Robin Williams dans Will Hunting quand Matt Damon le prend dans ses bras. C'est la seule chemise qui existe. La chemise qu'on voit à l'écran.
Et c'est pas un truc que tout le monde peut comprendre. C'est ça,
en fait. C'est ça, ouais.
C'est qu'on se dit, bon, les gens, ils vont dire, bon, c'est un bout de tissu. Mais c'est pas un bout de tissu.
Non. C'est pas un bout de tissu.
C'est un bout d'histoire.
Après, c'est comme l'histoire, les gars.
J'ai une bonne question pour vous deux, les gars. Je vais commencer avec toi, Guillaume. De tous les films que t'as vus, si là, demain, je te dis, regarde, Guillaume, je suis blindé. J'ai gagné à l'euro million. Je t'offre le propre que tu veux. Pour vous donner une idée, il y a un des animatroniques, je crois qu'il doit y en avoir 3-4, D.T. qui a été vendu aux enchères, c'est souvent passé dans les stories sur Twitter en ce moment, elle a été vendue pour 2,4 millions d'euros. Mettons, je gagne 300 millions d'euros l'auto, je peux t'acheter n'importe quel propre.
Bah,
tu veux que je t'offre quoi?
Bah, je dirais quand même une des DeLorean du film, quoi. Mais bon.
La vraie DeLorean du film.
La vraie DeLorean.
Et bah, je te l'offre.
Mais c'est gentil.
Et bah, je te l'offre.
Déjà, tu m'as offert un tour dans une DeLorean.
Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on raconte ces trucs? C'était trop bien.
Je pense qu'on l'avait déjà raconté.
Ah,
l'avait déjà raconté.
Ok. C'était l'anniversaire de Guillaume et comme il est fan de Retour à le futur, je m'étais dit, ce qui serait trop bien, ce serait de contacter quelqu'un qui a une vraie DeLorean trafiquée de Retour à le futur, de lui bander les yeux, on enlève le masque.
C'était fou.
Et tu fais un tour dans la DeLorean. C'est vrai qu'en bas de chez moi, il y avait la DeLorean.
Ce qui est génial, c'est que voilà.
Je l'ai la vidéo de cette.
Effectivement, c'est donc Franck My Life que vous pouvez suivre sur les réseaux qui avait ça.
Exactement.
Et évidemment, on n'a pas le droit de la conduire, c'est normal. Mais on peut rentrer sa date de naissance. Et ça, c'est magnifique.
Ah, il avait rentré ta date de naissance. Ah, mais attends, tu m'as jamais raconté ton petit tour à l'intérieur, parce que toi, t'as fait ton petit tour. T'es rentré dans la voiture, t'as fait ton petit tour, mais comment ça s'est passé? Tu m'as jamais raconté ça.
Ben, ce petit tour, j'étais émerveillé. Après, on a fait le tour du pâté de maison et tout, mais il y a quand même ce truc où tu te dis, mais j'avais les yeux partout, quoi. Ouais, je me disais, ça y est, ça va partir. Bon, ça va jamais assez vite, parce qu'on était dans plus ou moins en région parisienne. Tu veux faire tu veux pas aller à la bonne vitesse, mais en tout cas
il y a tout dans sa voiture. Ouais.
Dans sa voiture, il a mis le convecteur temporel, ouais. Il y a vraiment tout, quoi, tu vois. C'est et ce qui est bien, c'est que quand tu montes dans sa voiture, il pousse le truc à fond parce qu'il met la soundtrack de Retour vers le futur.
Ouais,
tu
ouais,
donc t'es vraiment dans l'ambiance.
C'est génial. Fond,
c'est trop bien. Aurélien,
ce serait ce props.
Si tu pouvais, je t'offre un props, j'ai gagné l'euro million.
Ouais.
Tu veux lequel?
Moi, ce serait un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial.
Toi, tu dis tous mes 300 millions.
Tout fonctionnel. Le vaisseau spatial de
gendarme extraterrestre.
Ouais, moi je pensais plutôt à Independence Day ou un truc comme ça, quoi. Un truc
à mon pays, je sais même pas s'ils l'ont fait, c'est une miniature, quoi.
Ouais.
Costume de Villeray dans la soupe au chou.
Je voudrais bien une navette de V. Tu vois les navettes blanches là avec leur signe de nazi là. J'aimais bien ça.
Et tu mets ça où?
Bah, je sais pas, je vole avec, je me balade.
Alors, n'hésitez pas à nous dire sur Twitter, parce qu'à chaque fois on met le lien d'épisode. Mettez-nous sous le lien de l'épisode le props que vous rêveriez d'avoir.
Mais d'ailleurs, donc le site sur lequel tu as acheté la chemise.
Prop Store. Oui, c'est ça.
C'est une enchère. Et à la base, tu venais pour la combinaison totale.
Last
Action Hero.
Ah ouais,
ouais. Avec à la base,
des Santiago à la veste.
Ouais, je vais vous expliquer. Je crois que j'ai déjà raconté, mais en gros, il y a des enchères à Los Angeles tous les 6 mois sur Prop Store, un truc comme ça. Et c'est trop bien parce que t'as la caméra sur la salle des enchères. Et toi, tu tapes sur les enchères et puis tu sais, tu enchéris avec les autres, etc. Le prix monte et tout. Et à base, je m'étais dit, je veux l'ensemble de la Action Hero. Donc il y avait le manteau en cuir, le flingue, le jean, les bottes, etc. Et moi, j'aurais mis ça dans un mannequin et c'était trop bien. Et c'était pas si cher en vrai quand j'avais vu le. Enfin, pas si cher. C'était.
$4,000.
Non, mais c'était prix de départ $1,500. Franchement, 1500, ah. Tu vois. Il y a des gens qui partent en vacances et qui mettent 1500 dans un voyage à New York.
C'est parti beaucoup plus cher.
Bien sûr. C'est parti en tout à 7000 et j'étais là, genre, je peux mettre 7000, quoi, tu vois. Et du coup, j'avais des petites options derrière. Tu vois, il y avait aussi le trench qu'a Schwarzenegger dans True Lies quand il se bat dans les chiottes. Il a un trench gris. Bah, il était en vente, tu vois. C'était une de mes options, mais c'est pareil, c'est parti cher, etc. Et parmi toutes mes options, il y avait aussi la chemise de Robin Williams de Will Hunting. J'ai failli ne pas la gagner, mais finalement, je l'ai gagnée. Disons que je me suis fait un petit plaisir comme ça, mais moi qui suis tellement passionné, c'est...
Et c'est marrant de se dire qu'il y a des personnes sur cette terre qui sont tellement connues, qui donnent de la valeur aux objets.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, genre, t'es tellement connu que là, bah, j'ai mis un t-shirt. Tu sais, un t-shirt de Michael Jackson qu'il a porté. Il a peut-être même porté un jour. Bah, il a donné de la valeur à un objet.
Mais alors, j'ai deux anecdotes là-dessus. Bizarre. La première, c'est que je me souviens quand j'avais fait le TAPS de Martin Scorsese, forcément, je cherchais plein d'images d'archives de lui quand il était jeune. Et j'avais plein comme ça d'images d'archives de Martin Scorsese. Et parfois, je le voyais, il est détenu dans les années 60 quand il n'était pas connu. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils sont devenus, cette tenue? Là, il a une chemise. Il a 18 ans, il a une chemise. Bah, j'imagine. Que cette chemise, il l'a plus aujourd'hui. J'imagine que sa mère l'a mis, voilà, en fripe et tout. Et il y a quelqu'un aujourd'hui, soit elle a été détruite, soit elle existe encore. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a la chemise de Scorsese quand il avait 17 ans, mais il est pas au courant, forcément. Tu vois? Ça, c'est assez incroyable. Ouais, c'est et la deuxième chose, c'est que récemment, je regardais une interview de Jean Rochefort sur YouTube et il racontait un tournage d'un film dans lequel il avait joué avec Johnny Hallyday. Et donc, l'intervieweur lui dit, c'était comment de tourner avec Johnny Hallyday? C'était la première fois que Jean Rochefort le côtoyait, etc. Et il disait, bah, c'est incroyable parce qu'il dégage ça, l'aura de Johnny Hallyday, dès qu'il passe, les gens sont comme des oufs, etc. Et il avait dit, j'ai assisté à une scène que j'avais trouvée très triste. J'étais comme ça en extérieur, en tournage avec Johnny Hallyday, il fumait une clope, et d'un coup, il a jeté son mégot par terre, et j'ai vu quelqu'un qui était venu pour, tu vois, avec un maillon de sécurité autour du tournage, comme ça. Il a passé les bandages de sécurité, et puis il allait récupérer le mégot. Et il a dit, j'ai trouvé ça très triste.
C'est un peu chelou, ouais.
Mais il y avait ce truc où, oui, effectivement, pour un fan, t'as le mégot de Johnny Hallyday, tu vois. Je peux comprendre le délire.
Sur eBay, ils avaient vendu le chewing-gum de Britney Spears.
Exactement. Mais tu vois, je peux comprendre le délire de ce fan. C'est marrant parce que je peux comprendre le délire de ce fan qui va chercher le mégot de Johnny, tu vois. Il y a ce côté, c'est le mégot de Johnny. En plus, surtout Johnny en France, il y a vraiment des fans hardcore, quoi, tu vois. Mm. Mais je comprends aussi ce côté triste de gars, t'es en train de ramasser un mégot d'un
ouais,
type. Comme
en
ça,
fait, si tu prends du recul, ça n'a aucun sens.
Ouais.
Mais
il l'encadre et il fait une belle petite gravure. Et tu vas chez le gars et tu vois mégot de Johnny.
Et sa déco, c'est un mégot, quoi.
Ouais, mais,
au mur.
Ouais, d'accord, mais franchement, tu vois ça. Moi, si je vais chez le gars.
Son appart, c'est un standard, le gars.
Non, mais si je vais chez le gars et que je vois un truc encadré avec une petite gravure en or, machin et tout, et ben, franchement.
T'es impressionné.
Non, c'est pas que je suis impressionné, mais en tout cas, ça me divertit, tu vois. Je suis chez lui et ça me divertit plus qu'un type qui va avoir un tableau avec des taxis jaunes de New York acheté chez Jiffy, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire?
Enfin, le Jiffy fait mal.
En même temps, c'est vrai. Merci pour cette chronique de gueule.
Bah, avec plaisir, enfin, vous rigolez.
Excellent.
Alors, Christophe et Guillaume, on va faire un petit truc. J'ai sélectionné des films sur lesquels vous avez travaillé. Et l'idée, c'est de me raconter une petite anecdote sur ce film, la première qui vous vient à l'esprit. Donc, j'ai comme ça visualisé votre filmographie qui est hyper impressionnante. Je vous donne un film sur lequel vous avez travaillé chacun et vous me donnez une petite anecdote, la première qui vous vient à l'esprit. On va commencer avec Guillaume. Guillaume, je sais que tu as travaillé sur le Truman Show. C'est le premier gros film sur lequel tu as travaillé quand tu es arrivé aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote?
Oui, pour le Truman Show, on a tourné la première moitié, les trois quarts du film en Floride, dans une petite ville qui s'appelle Seaside. Et pour donc recréer l'île sur laquelle Truman habite. Et puis après, on a migré vers Los Angeles pour tourner toutes les scènes avec Christophe dans la salle de contrôle du studio. Et donc, Christophe est incarné à l'écran par Ed Harris. Et pendant 3 mois et demi, on avait casté Dennis Hopper pour le rôle de Christophe. Et donc, on a tourné le film pendant 3 mois et demi en pensant que Dennis Hopper, c'était Christophe. Et quand on est rentré à Los Angeles, il y a eu un petit changement de casting de dernière minute. Et c'est donc Ed Harris qui est arrivé. Et après une matinée, il a incarné Christophe. C'est lui qui est devenu Christophe. Et donc, c'était quand même un moment assez bizarre parce qu'on passe 3 mois et demi en pensant qu'un personnage, c'est joué par tel acteur. Et puis on arrive et ça change, donc il y a eu beaucoup de changements de dernière minute, mais comme Peter est quand même quelqu'un d'extrêmement pointu, la transition était parfaite et en fait Ed a fait un boulot formidable en tant que comme ce personnage.
Très bien, merci Guillaume. Maintenant autour de Christophe. Christophe, tu as travaillé sur La Cité de la Peur.
Ah ouais.
Est-ce que tu as une anecdote à propos de ce film?
Oh bah une anecdote, oui je me souviens bien du tournage à Cannes, une anecdote particulière je sais pas, mais une fois encore j'avais des yeux d'enfant, je regardais ça après avoir fait le, on avait tourné ça juste après le festival de Cannes en fait, on avait profité des décors et de tout ce qui était encore en place pendant quelques jours après, et une anecdote particulière non pas vraiment à part ça qui était quand même flash d'aller tourner au festival de Cannes, moi à l'époque
c'était un petit premier film ça,
une vingtaine d'années,
ouais c'est ça.
Bah oui, il me semble, hein, je devais avoir une vingtaine d'années, 19 ans ou 20 ans, quoi. Donc, voilà, non, puis on n'a pas, il n'y a pas eu une participation énorme, j'y suis allé quelques jours. Je me souviens d'essayer les holsters avec Alain Chabat, toutes ces choses-là. Mais, c'était pas vraiment un gros film d'action, donc la participation de l'armurier, elle était assez simple, quoi.
Oui, c'était surtout les flingues de Chabat dans le film, quoi. C'était surtout ça, en fait.
Ouais, ça, le holster, et puis, la manière de dégainer et de braquer son flingue qui nous avait bien fait rire. Ouais.
Guillaume, le dernier film sur lequel tu as travaillé, qui est un immense film à venir, c'est le Oppenheimer de Christopher Nolan. Est-ce que tu as une anecdote sur ce tournage?
J'en ai beaucoup, mais malheureusement, je ne peux pas vraiment en parler avant que le film sorte. mais je pense que ça va... mondialement, ça va être un succès retentissant. C'est un film très important. Et
ce que je peux dire,
après la sortie, je pourrais vous en parler un peu plus.
Ce que je peux dire, c'est que parce que tu le dis dans la vidéo, c'est que ta façon de travailler sur Oppenheimer, c'est que en gros, Nolan est quelqu'un d'assez précis et de tatillon. Et en gros, ce que tu as fait, et c'est aussi ta façon de travailler à toi, c'est que pour Oppenheimer, tu t'es renseigné sur tous les vrais personnages qui jouent dans le film pour savoir à quel doigt ils portent leur alliance ou s'ils fument. Beaucoup, ce qui était le cas d'Oppenheimer, et en gros, t'as affiché comme ça sur ton mur de bureau plein de photos, plein d'informations, et c'est comme ça que t'as travaillé pour trouver les bons props pour les personnages d'Oppenheimer.
Exactement. Mais quand on fait un film historique et qu'on a la chance donc d'avoir un plan de travail en fait, parce que ce sont des faits qui sont déjà arrivés, donc on fait une recherche très poussée pour que puisqu'on raconte la vie de quelqu'un, qu'on ait au moins fait l'effort d'être précis et puis d'être authentique. Et donc, on le fait pour nous, bien sûr, pour que le film soit de bonne qualité. Puis, on le fait également pour les gens dont on raconte l'histoire. Et effectivement, pour Oppenheimer, la recherche, pas seulement pour les accessoires, évidemment, pour les costumes, pour les décors, a été quelque chose que j'ai rarement vu à ce niveau-là sur un tournage de cinéma. C'était vraiment quasi scientifique.
Très bien.
Donc, je pense que le public sera très, très enchanté de voir ce film.
J'en suis certain. Christophe, t'as travaillé sur Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mais alors, dans mes souvenirs, il y a des armes dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ?
Ah oui, oui, plein. Il y a énormément d'armes. C'était un truc de fou. Non, pas du tout. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Mais comme Jean-Pierre est extrêmement précis, on a pu le voir après, quand on a fait un long dimanche de fiançailles, où là, il y en avait énormément des armes dans les tranchées et tout. Ça avait vraiment été la guerre. Mais pour l'épée de Zorro, il y a un moment où il y a le costume de Zorro et il fallait une épée. Donc pour ça, je suis allé sur le plateau. On en a parlé un bon moment. On a fait un casting de plusieurs épées avec le costume. Et c'était pour une photo, je crois, qui apparaît dans le film.
Exactement.
Dans et le puis il y avait... Ouais, exactement. Et puis à un moment, je crois qu'on voit une ou deux armes à un autre moment. Mais à chaque fois, de toute façon, quand Jean-Pierre a besoin d'une arme, même pour un plan qui dure quelques secondes, on va en parler longtemps avant de tourner le plan, parce que comme Nolan, c'est quelqu'un d'extrêmement précis, tout est bien réfléchi, pensé, il n'y a rien qui est laissé au hasard, et bah, ça fait partie du process, quoi.
Très bien, merci. Guillaume, tu
me disais... Je voudrais faire je vais aussi une anecdote sur Amélie Poulain.
Ah.
Et je vais en profiter pour faire un shout-out à ma ville natale. Audrey Tautou est originaire de la même région que moi et nous sommes allés au même lycée. Elle avait, je pense, 2 ou 3 ans de moins que moi.
Ah ouais.
Et on a suivi le même cours de cinéma audiovisuel au lycée Madame de Staël à Montluçon.
Ah, c'est drôle,
voilà,
ça.
Je voulais,
ah, donc, petite anecdote. C'est vraiment une école de stars là-bas à Montluçon.
Ouais, bon, enfin, il y a une star. Hein,
non, il y en a deux, manifestement. Guillaume, tu me disais tu m'as raconté cette anecdote à Los Angeles, on était privilégiés avec Guillaume, mais tu as travaillé sur le premier Jurassic World, et là-bas, tu nous disais qu'Universal t'a donné des anciens props du vrai Jurassic Park pour que tu les retravailles. Est-ce que tu peux nous parler de ces props?
Oui, comme il y avait des scènes dans le film où on redécouvrait les ruines du premier parc, du premier film Jurassic Park, donc il fallait que les enfants et puis le personnage de Chris trouvent donc ces accessoires, les anciennes voitures, les jumelles infrarouges et tout ça. Donc les archives d'Universal m'ont donné les derniers exemplaires de ce que Jerry Moss, l'accessoiriste, avait fait pour Jurassic Park.
Trop bien.
Et donc elles avaient 30 ans, hein, presque 30 ans ou 25 ans. Donc on les a pas transférées parce qu'il faut pas les toucher, c'est des objets qui sont maintenant dans les musées, mais on a été bien sûr de les faire qu'elles fonctionnent bien, qu'elles s'allument toujours, que ça marche encore. Donc on les a restaurées et puis on a mis une fine couche de poussière dessus, évidemment, puisqu'elles étaient déposées dans un garage pendant 20 ans. Et donc on a eu accès. On fait souvent ça quand on fait une séquelle d'un film plusieurs années après. On a accès aux archives du studio donc pour recréer certains accessoires. J'ai fait la même chose pour le dernier Ghostbusters où j'ai pu avoir accès au Proton Pack du premier film.
Magnifique. Christophe, tu as travaillé sur Rush Hour 3.
Oui.
Est-ce que tu as des anecdotes sur ce tournage? Parce que là par contre, il y a des flingues.
Oui, là, il y a des flingues. On a fait tout le truc sur la tour Eiffel. Ça marchait partout. Ça tirait de partout. C'était les Américains arrivent à Paris. L'anecdote, c'est le débarquement monstrueux de matériel, la débauche de matériel, de voitures traveling, de tout ça. C'était vraiment très, très impressionnant. Quand ils sont arrivés, il y avait 5 voitures traveling. C'est la première fois que je voyais des voitures traveling électriques pour pas qu'il y ait d'à-coup au démarrage, enfin, tous des trucs de fou. Et puis voilà, c'est tout. Ça a été assez rapide, hein, le Rush Hour à Paris. On avait tourné quelque chose comme 2-3 semaines, il me semble.
Ok, très bien. Guillaume, t'as bossé sur les Sentiers de la Perdition. Et ce que j'ai appris, c'est qu'apparemment, Tom Hanks, sur les tournages, eh ben, il fait à manger, apparemment.
C'est vrai, oui. Tom est très famille. Et il est avec à l'époque, son chef maquilleur, c'est Danny Stripel, qui est donc un de ses meilleurs amis aussi. Et donc, Danny et Tom, une fois de temps en temps, allaient cuisiner avec le traiteur du film. Et ils faisaient, une fois, ils ont fait un ossobuco, une fois, ils ont fait. Donc, ils aiment bien nourrir l'équipe.
Des lasagnes
ça,
aussi.
Ça crée une ambiance. Voilà, les lasagnes, c'est ça. Ça a une ambiance. Ça met une ambiance bon enfant. Bon, le film était quand même assez dur et noir, et donc ces petits moments-là de détente sur un film qui était quand même très très dur à tourner. Il était tellement dur qu'il y a Askor Wexler a fait un documentaire qui s'appelle Qui a besoin de dormir, et c'était en fait sur le tournage du Sentier de la Perdition, parce qu'on travaillait 80 à 90 heures par semaine, et donc on était tous épuisés à la fin du tournage, de nuit à Chicago en plein hiver, avec des températures de moins 15, avec des acteurs qui étaient quand même assez âgés, Paul Newman, et puis le directeur de la photo, Conrad Hall, et tout ça. Donc voilà les anecdotes de Sentier de la Perdition.
Très bien. Christophe, t'as aussi travaillé sur Taken.
Oui.
Alors, comment c'était de bosser sur Taken?
Ah bah c'était formidable, Taken.
Ouais.
Formidable parce que d'abord c'était le metteur en scène, Pierre Morel. C'est un grand copain. On s'est connus au tout début. On a débuté ensemble. Moi j'avais 18 ans, je crois que lui on en avait 19 ou 20. Et on était sur les commissaires Moulin.
Ok.
Avec Yves Régnier. Donc, on a démarré ensemble et puis je l'ai vu grandir, travailler avec Luc à la caméra. Et puis, je crois qu'on a fait Banlieue 13 avant de faire Taken, il me semble. Je crois que c'est dans cet ordre-là.
Ouais.
Et puis, Taken, c'était un film tellement réussi, tellement bien fait. Et ce que j'ai entendu et ce dont je me souviens de ce film, en dehors de tout le tournage, qui avait été une aventure formidable, mais je me souviens de Pierre qui va présenter la première copie à Luc. Ils le regardent tous les deux. Et j'ai entendu dire que Luc aurait dit que c'était bon et qu'il n'y avait rien à retoucher, et donc que c'était quand même une super performance de la part de Pierre. Donc on était tous très contents d'avoir participé à ce film qui avait été pour nous une grande aventure. Et puis Liam Neeson, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement sympathique, d'extrêmement professionnel.
Mais alors justement,
qui,
Liam Neeson,
qui allait à fond avec les armes.
Justement, Liam Neeson, quand toi t'es sur le tournage, tu lui donnes des conseils pour qu'il puisse manier l'arme de telle façon, ou là, est-ce que toi t'es là pour l'aider?
Alors ça, c'est pas le rôle de l'armurier. Évidemment, si le comédien nous pose une question en direct, sous couvert de son chorégraphe, cascadeur, conseiller technique, je sais pas comment on peut dire, mais il y a quelqu'un qui s'occupe de lui et qui gère ses combats, ses actions, et qu'il l'entraîne et qu'il le forme pour les différents films. Donc moi, je suis là si effectivement on me demande un conseil ou une histoire sur l'arme ou comment on utilise telle ou telle fonction de l'arme. Bien sûr, je suis là pour y répondre. Mmh. Mais moi, mon métier, c'est avant tout d'être là pour la sécurité et puis de bien faire fonctionner le matériel. Quant à l'attitude du personnage dans le film, ça, c'est normalement géré par les chorégraphes et les règleurs de cascade et les coachs personnels de ces grands acteurs.
Très bien. Guillaume, là, on parle de films qui s'inscrivent quand même dans un espace-temps traditionnel. Tu as travaillé sur Men in Black 2. Comment c'est de travailler sur un film comme ça, un peu plus futuriste, parce qu'on doit créer des armes? C'est ce que tu nous expliquais à Los Angeles, c'est que souvent, vous prenez des armes actuelles et vous mettez une sorte d'armure, enfin, vous rajoutez quelque chose dessus pour que ça paraisse être futuriste.
Oui, Men in Black 2, puis le premier Men in Black, c'était la première fois où on a intégré les armes électroniques de Delamere Engineering. C'est des petites charges explosives qui fonctionnent électriquement. Et donc, dans les armes des Men in Black, c'était parfait pour intégrer ça. Tout était électrique et tout était contenu dans la coque de l'arme. Mais c'était quand même, bon, Men in Black, c'était 95 et Men in Black 2, c'était 2001. Donc, c'était quand même le début. Maintenant, avec la technique d'imprimante 3D et puis les avances technologiques qu'on a fait, on peut miniaturiser des choses. On utilise des vraies armes à feu que donc ensuite on fait un modèle en 3D et que l'on recouvre d'une armature qui donne un aspect futuriste. C'est ce qu'on a fait pour Transformers 5. Il y a beaucoup de films comme ça.
Oblivion, par exemple. Futuriste.
Voilà, comme Oblivion, par exemple, exactement, où je vous avais montré les armes d'Oblivion à l'armurerie. Et donc, il y a beaucoup de... Maintenant, c'est quand même beaucoup plus souple comme système que... Pour Men in Black, toutes les armes étaient faites main par des techniciens. Chaque pièce était faite main, polie, tout ça, avec des techniques traditionnelles de machines à commande numérique. Et maintenant, tout est fait quasiment par l'ordinateur en 3D. Il y a quand même de la finition, évidemment, qui est... obligé, mais ça a quand même beaucoup changé. Mais les films futuristes, je les trouve plus difficiles à faire que les films historiques. Parce que d'abord, il faut utiliser son imagination, et puis il faut utiliser les artistes, et puis il y a beaucoup de Il faut faire beaucoup de dessins, beaucoup de concepts. Et puis, une fois que c'est fait, il faut faire le modèle en 3D qui prend beaucoup de temps. Et puis après, on peut fabriquer autant d'accessoires qu'il nous en faut grâce à ce modèle.
Christophe, tu as bossé sur un tournage qui semble très compliqué. Moi, quand on me parle de tournage, j'ai toujours l'impression que les tournages les plus compliqués, c'est ceux qui concernent les Missions Impossibles. Parce que tu as travaillé sur Mission Impossible Fallout. Et j'imagine que de travailler sur ce genre de film, ça doit être assez complexe, non ?
Oh bah c'est oui, il y a une pression énorme. Hein. Il y a Tom Cruise sur le tournage. C'est quand même un monde du cinéma, producteur, réalisateur, scénariste. C'est le patron du patron du patron, quoi. Donc il y a une grosse pression. Et puis surtout, il aime bien performer. Il faut que les choses soient poussées au maximum. Donc ouais, les enjeux sont importants. Ce qui a été terrible sur celui-là, c'est qu'en plus de tous ces enjeux importants, ça a été une sale période pour la France. Il y a eu des attentats importants. Et ça a été vraiment la veille de la scène d'action qui se passe sur les quais, où Tom Cruise tire sur plein de gens, notamment sur un policier, parce qu'il rêve, il cauchemarde, enfin toute la partie, une partie cauchemardée. Et donc, on devait tourner ça le lendemain, on sortait d'une réunion immense au Grand Palais avec tous les producteurs, le metteur en scène, Tom Cruise, tout le monde, on avait tout décidé de ce qui allait se passer le lendemain. On avait des autorisations de tournage pour tirer avec des cartouches assez faibles. Et en partant de ce rendez-vous, ça a été l'attentat sur les Champs-Élysées où malheureusement un policier a perdu la vie. Ouais. Et donc, on a tout de suite imaginé qu'on ne pourrait évidemment pas faire le travail, mais on avait prévu des solutions, dont on avait un plan B avec des cartouches silencieuses et d'autres systèmes de tir qui permettent de faire fonctionner les armes sans qu'il y ait de la violence apparente. Et on a pu faire toute la séquence comme ça. Mais ça a été un peu tendu. J'imagine. Par contre, on a vécu des moments magiques, comme quand il y a cet énorme hélicoptère de l'armée qui est venu se poser sur le ministère des Finances en survolant Paris, ce qui est absolument exceptionnel. On était à quelques mètres de l'hélicoptère parce qu'on gérait les armes des quelques comédiens qui étaient autour. Et de sentir ce Puma ou Super Puma, je ne sais plus ce que c'était, je ne suis pas un expert en hélicoptère, mais cet énorme hélicoptère qui arrivait avec sa pression et sa puissance colossale, enfin, c'était grisant. Quoi. Ça pour dire, pour les films avec Tom Cruise, c'est les moyens mis en œuvre, les cascades, les véhicules. C'est colossal.
Incroyable. Guillaume.
Ouais, d'ailleurs, je pense que vous avez vu la dernière cascade qu'il a faite. Oh, c'est monstrueux.
Figure-toi qu'on en parlait dans le podcast précédent. Même la façon qu'il a eu d'annoncer la sortie de Top Gun Maverick sur Paramount Plus, il s'est jeté d'un hélicoptère pour sauter en parachute. Ce gars est incroyable. De toute façon. Guillaume, t'as bossé sur Thor et en gros, à Los Angeles, tu nous expliquais que. Eh ben le fameux marteau de Thor, tu as dû un peu le modifier. C'est aussi une de tes fonctions.
Oui, on a eu la chance de travailler sur le quatrième Thor. Et donc, dans le quatrième Thor, qui s'appelle Love and Thunder, ici, le marteau est cassé par Hela dans le troisième, dans Ragnarok. Donc, quand on m'a offert Thor, j'ai tout de suite pensé, ah ben tiens, il va falloir que je répare le marteau, que je fasse un nouveau marteau. Et effectivement, le marteau donc, est en plusieurs morceaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris on a littéralement imprimé chaque image du film qu'on voit à l'écran du marteau qui se casse. Et mes artistes ont reconstituer les cassures exactement comme elles étaient avec la masse du marteau et on a fait un puzzle en trois dimensions du marteau qu'on pouvait reconstituer en fait avec des aimants pour que ce soit exactement comme il s'est cassé. Donc il y a absolument aucune on n'a pas triché du tout, c'est vraiment comme si on avait cassé le marteau en mille morceaux et on a fait ça puis on a fait des versions où le marteau est bien évidemment reconstitué et où il s'allume et tout ça. Donc ça, c'était quand même c'est un accessoire qui avait été déjà fait plusieurs fois par Russell Bobbitt, par d'autres accessoiristes, mais la nouveauté, c'était qu'il était en cassé, donc il a fallu, donc c'était quand même un des gros accessoires du film qu'il a fallu refaire et qu'on était tous très contents parce que les fans de Marvel sont avides des accessoires et pendant qu'on faisait ça, on disait ils vont être contents quand ils vont voir ce truc parce que c'est quand même marrant d'avoir pu faire ça.
Trop bien, je vais terminer avec deux films. Christophe, tu as travaillé sur un film qui a cartonné en France ces derniers temps, c'est Le Chant du Loup.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail sur le film, de certaines anecdotes par exemple?
Ah ben, le travail sur le film, ouais, c'était vraiment intéressant. Le metteur en scène est venu nous voir au bureau, il a choisi les armes, il avait grande envie sur le matériel, il était très précis. Il y a les forces spéciales françaises aussi qui ont participé un petit peu, puisqu'on a vraiment tourné sur c'est l'île du Levant, il me semble, hein, où il y a l'armée française. On a tourné là et on avait une certaine responsabilité, parce que comme on tournait avec les vrais, il fallait que notre matériel soit au niveau, quoi. Et ça va, je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti, on les a pas déçus, on a amené ce qu'il faut. Et puis le film est surtout une réussite, hein. On était très fiers d'y participer, parce que je trouve que c'est vraiment une réussite. Avec le budget dont disposait le metteur en scène, il a fait quelque chose d'assez incroyable, je trouve.
Très bien. Et Guillaume, enfin, t'as bossé sur... Alors, si je dis pas de bêtises, t'as bossé sur 2 Fast and Furious. Hein.
Oui, 5 et 7.
Et t'as préparé aussi un gros flingue pour The Rock.
Oui, pour 5, Justin, le réalisateur, voulait donc créer ce personnage de Hobbs, Luke Hobbs, qui est un type du service diplomatique du ministère d'État des États-Unis. Et ce service, c'est les gens qui s'occupent de 2 choses. Ils font la protection du secrétaire d'État et ils font également la recherche de fugitifs internationaux. Ils font ce que les US Marshals font dans notre pays, à l'étranger. Donc, comme c'était un personnage un peu emblématique et un peu comme un cow-boy, on s'est tout de suite orienté, puisque tout le monde avait des Glock et des trucs automatiques, on s'est orienté vers un gros revolver, un gros Smith & Wesson 44 Magnum, comme Eastwood avait dans Dirty Harry. Et ça a tout de suite plu à Justin et à Dwayne. Et donc, on l'a marié avec ce gros Smith 44 Mag qui a duré jusqu'au numéro 8. Je crois qu'ils l'ont changé dans le 8e film.
Oui, tu nous l'as montré à Los Angeles.
5, 6, 7, 8.
Et il était assez massif. Et là-bas aussi, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, quel est le plus gros gun que tu as créé pour un film? Et c'était encore une fois dans Fast and Furious. Tu nous as dit que c'était dans un bus.
Oui, on a fait on appelait ça le bus pirate. Parce que c'était, on a acheté 3 gros bus et on en a modifié 2. On a monté de chaque côté dans les compartiments bagages, on a monté des mitrailleuses de calibre 30 qui étaient montées sur des pieds robotisés qu'on pouvait contrôler de l'intérieur. Mes armuriers étaient à l'intérieur du bus pendant les cascades et contrôlaient le tir par télécommande donc de ces mitrailleuses. On en a fait 2 vraies, donc on avait 12 mitrailleuses, 6 dans chaque bus, 3 de chaque côté. Et puis on avait un 3e bus qu'on a jeté d'une falaise avec le même système, mais les mitrailleuses étaient en latex, étaient en mousse, parce qu'on ne va pas balancer des mitrailleuses lourdes de falaise. Et donc, c'était super sympa. On a fait les 2 bus pour la seconde équipe. Dans les Fast and Furious, on tourne toujours la seconde équipe. On démarre toujours la seconde équipe en premier pour les cascades. C'est Spiro Razatos qui réalise des cascades. C'est un des plus grands cascadeurs ici. Et donc, les bus sont partis dans le Colorado faire toute la scène où les voitures sont parachutées d'un Hercule C-130. On a aussi fait ça. On a envoyé des voitures par parachute d'un gros transport militaire. Il y a beaucoup de cascades dans les Fast and Furious qui sont des cascades physiques qu'on fait réellement.
Ouais. Parce
que ça donne de l'attrait au tournage. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est que Christophe et moi, nous sommes rencontrés par téléphone sur le Patriot, je crois, et on s'est rencontrés physiquement quelques années plus tard sur un film avec Tom Cruise également, qu'on a tourné en Espagne, en Autriche, en Jamaïque, qui s'appelait Night and Day.
Avec la fameuse course des taureaux, avec les taureaux qui s'étaient barrés dans la ville et tout.
Voilà.
Et vous n'avez pas les mêmes anecdotes que nous, les gars. Non, on ne partage pas les mêmes anecdotes.
Oui, on avait des taureaux qui étaient mal gardés et ils se sont barrés à Cadiz. Et ils ont renversé une petite dame. Elle n'a pas eu trop de bobos, mais c'était quand même traumatisant. Et puis, on a passé la journée à essayer de récupérer les taureaux. Ils sont allés jusqu'à la plage.
Est-ce que malgré l'éloignement Los Angeles-Paris, est-ce que vous communiquez souvent ensemble? Est-ce que vous parlez de vos projets respectifs? Comment ça se passe entre vous?
Absolument, ouais, on se parle régulièrement. On est en plus de travailler ensemble, on est potes, quoi, donc on prend des nouvelles régulièrement et on essaie de se croiser. Enfin, quand moi, dès que je vais aux États-Unis, je l'appelle et puis la même chose dans l'autre sens. Hein.
Trop bien, génial.
Bien sûr.
On est avec Guillaume et Aurélien aussi. Est-ce que vous avez une question pour Christophe et Guillaume?
Ouais, j'ai une question évidemment. Alors quand on écoute vos carrières, elles sont évidemment impressionnantes et couronnées de succès. Mais est-ce qu'il y a encore des choses quand on arrive à ce stade de vos carrières qu'on a envie de réaliser, qu'on n'a toujours pas fait, ou des projets de rêve qui restent à réaliser?
Ah ouais, ouais, toujours.
Comme ah, moi plein, évidemment, comme au premier jour. Chaque film, à chaque fois, chaque film, c'est comme si on n'en avait pas fait avant. Non, chaque film, c'est un nouveau plaisir, c'est des nouvelles rencontres, des nouveaux objectifs. Et puis, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, la technique, toute la technologie, tout évolue. Donc, on se remet en question, on va de l'avant. Et on espère découvrir tout le temps de nouvelles choses. Et puis, il faut au contraire garder les yeux grands ouverts, l'âme d'enfant, et être prêt à découvrir plein de trucs et à s'émerveiller chaque jour.
Guillaume, t'as encore des rêves?
Ah ouais, tout pareil. De toute façon, je suis incapable d'avoir un vrai boulot. Si je ne tirais pas le cinéma, je ne pourrais pas travailler.
Alors, c'est pas un vrai boulot,
j'ai jamais travaillé un jour de ma vie. J'adore ce que je fais.
Trop bien.
Mais je passe beaucoup, souvent de, quand j'ai fini Oppenheimer, on a tout de suite enchaîné avec Reno 911, qui est une petite série télé du style Les Nuls. Je fais pas de télé, c'est la seule série télé que je fais parce que les créateurs, c'est des copains à moi. Et donc, on est passé d'un plus gros budget avec tous les stars du monde dedans à un truc de comédie marrante avec des flics loufoques, des trucs. Donc, j'aime beaucoup varier les genres. Après, je viens de finir un film qui s'appelle Night Bitch et le prochain film, c'est Wolves avec Brad Pitt et George Clooney. Donc, j'aime beaucoup varier la taille des projets et ça me garde. Puis aussi les ressources, quand on fait un très gros film, évidemment, c'est plus facile de faire certaines choses. Quand on fait un petit film, il y a plus de contraintes financières, donc il faut utiliser son cerveau un peu plus. Et c'est ça qui me garde, je suis content donc d'avoir toujours un peu des challenges, c'est pas toujours la même chose, c'est pas de routine, disons.
Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, quand on était à Los
Angeles. Il y a un autre truc qu'on peut pas imaginer. C'est que sur les films, lorsqu'on les fabrique, ça n'a pas de rapport avec ce qu'est le film après. J'entends par là qu'il y a des films à tout petit budget, avec des petites équipes, où on passe un moment merveilleux à le fabriquer. Et puis, il y a des films énormes, avec des grandes ambitions, qui sont très beaux à voir, mais qui ont été très durs à faire et très pénibles à faire. Mmh. Donc, il faut rester ouvert pour tout, parce que des fois, on prend vraiment du plaisir sur un film où il y a très peu de budget, alors que des fois, sur un film énorme où on imagine qu'on va vraiment se régaler à faire tout, bah, c'est difficile parce que l'ambiance n'est pas là, parce que voilà, c'est à chaque fois des familles qui se montent et il faut rester ouvert pour tout parce que c'est pas toujours sur les plus grands films qu'il y a les plus grandes émotions. Quoi. Voilà.
Aurélien, est-ce que tu as une question pour Guillaume et Christophe?
Oui, bien sûr. Là, vous écoutez, j'ai l'impression que vous êtes vraiment les spécialistes pour résoudre des problèmes sur des tournages ou trouver les accessoires qu'il faut, les armes qu'il faut. Vous pensez que c'est sur quel tournage que vous avez eu la demande la plus improbable ou la plus compliquée, en tout cas, dans votre carrière?
Il y en a beaucoup, hein.
Ouais. Le gâteau, rappelle-toi le gâteau qui t'a demandé quand on était à Florence. Et que le metteur en scène t'a demandé le vendredi soir ou le samedi soir, non c'était le samedi soir, après une semaine de 90 heures, qui à 10 heures du soir, le metteur en scène te dit « Donc Guillaume, je vais te demander une chose, est-ce que pour le plan de lundi matin 8 heures, tu pourrais pas me trouver un gâteau énorme dans lequel le personnage serait ?» Tu te souviens de cette histoire ou pas, Guillaume?
Ouais, mais la différence, c'est que c'était Michael Bay, le réalisateur, et ouais, il a jamais dit « Dis donc Guillaume, il a dit, je veux un gâteau lundi matin à 8 heures, j'en veux 3, on va passer une voiture à travers. » Mais l'accessoire le plus dingue qu'il a fallu que je trouve, c'était pendant Master and Commander, c'était au Mexique. On tournait à Ensenada sur un bateau, sur un vrai trois mâts, le bateau Surprise, qu'on a emmené au Galapagos d'ailleurs, plus tard dans le tournage. Et on avait une scène avec le docteur Mathurin où il observait un scarabée, un insecte. Et on a fait importer des insectes du Vietnam parce que ces insectes-là étaient exactement comme les mêmes insectes à l'époque au Galapagos en 1802, etc., etc. Et j'avais un entomologiste de Muséum du Sang Naturel de New York qui m'avait donné tout ça. Mais malheureusement, ces petites bêtes, elles meurent au bout de 15 jours. Alors, on les nourrissait tout ça, mais, tous les scarabées étaient morts. Ils arrêtaient pas de repousser la scène à plus tard. Donc, mon patron à l'époque, Doug Harlocker, m'a dit, voilà, les scarabées sont tous morts, on tourne ça demain, il nous faut des scarabées, si t'en trouves pas, ne reviens pas. Donc, après avoir passé une journée entière de 12 heures ou 13 heures en pleine mer dans l'océan Pacifique sur un trois mâts, J'ai débarqué, j'ai pris un petit chaloupe, j'ai débarqué, je suis retourné à Ensenada, je suis monté dans ma voiture, je suis retourné au bureau prendre une lampe, une flashlight, et je suis allé dans les montagnes mexicaines toute la nuit, wow, retourner des rochers pour trouver des scarabées. J'en ai trouvé une bonne demi-douzaine qui avaient à peu près la bonne taille, la bonne couleur, donc qui aurait pu passer pour le truc qu'on avait dépensé en dessous et qui était mort. Et donc le lendemain, je suis retourné au bateau. Et comme dirait Marco, un ami à Christophe et moi, moustache en inox, j'avais des scarabées, le film était sauvé.
Oh, joli, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, Aurélien, Léon a permis, bonjour, au grand public de découvrir la très jeune Nathalie Portman, qui aujourd'hui est une actrice installée.
C'est vrai.
Et des actrices qui ont commencé très très jeunes et qui ont tenu sur la durée, il y en a quelques-unes quand même.
C'est tout à fait vrai, et j'en ai sélectionné plusieurs, et je vais vous dire un petit jeu. Je vais vous donner un petit jeu plutôt. Je ne parle plus français à cette heure, c'est magnifique. Je vais vous donner des noms d'actrices.
Ah oui.
Vous essayez de me retrouver dans quel a été leur début,
ah,
leur premier film,
oui,
et surtout
très bon
à
jeu,
quel âge.
Ok.
On va commencer avec une très simple que vous avez déjà, je pense. Drew Barrymore.
E.T.
Ouais, E.T.
Tout à fait.
Et je pense qu'elle devait avoir 6 ans, non ?
Elle en avait 7.
Okay. Ah ouais.
Elle avait 7 ans. Et ce qui est marrant avec Drew Barrymore, c'est qu'après, elle a vécu la fast life, parce que dans les années 80, elle a fait très peu de films, mais beaucoup de soirées, et elle était quand même en cure de désintox à 13 ans, la meuf.
Alors, j'ai une très bonne anecdote là-dessus, que je qualifierais de tabzienne.
Ok, vas-y.
Peut-être que vous avez déjà vu cette image, ce passage, il y a Drew Barrymore qui, dans les années 90, était invité au Letterman Show. Et au Letterman Show, elle avait dansé sur le bureau de Letterman.
Et montré ses nibards.
Et elle avait montré ses nibards à Letterman, sauf que nous, on la voyait de dos, mais on voyait qu'elle montrait ses seins à Letterman. Que lui a acheté? Alors, Steven Spielberg est resté très proche de Drew Barrymore depuis le tournage. Limite, c'était une sorte de parrain, je crois.
C'est son parrain.
C'est son parrain, voilà. Et qu'est-ce qu'il lui a acheté pour Noël, 2 mois après l'épisode de Letterman? Il lui a acheté une couverture. Et il a mis une petite note en disant, la prochaine fois, tu te couvriras un peu mieux.
Et il a même fait la même chose, parce qu'en 95, elle a fait la couve de Playboy. C'était vraiment devenu la meuf un peu... qui avait pété les plombs, un peu la Britney Spears des années 90, quoi. Et Spielberg, comme tu viens de le dire, qui était son parrain, avait acheté tous les numéros de Playboy où elle faisait la couve, et il avait demandé à mettre des photos où elle était habillée. Mmh. Et il avait mis une nouvelle couverture avec marqué justement « Couvrez-vous », en mode genre, tu sais, il y a des années sida et tout ça, bref.
Wow.
Et en fait, oui, Drew Barrymore, grosse famille d'acteurs. Fille d'acteur, etc. Et bien sûr, maintenant, on l'a vu dans énormément de films, notamment avec Adam Sandler. Et c'est devenu même une productrice réalisatrice. Donc, elle a commencé à 7 ans et elle est encore hyper puissante dans l'industrie d'Hollywood. Donc, voilà.
Très bien.
Deuxième, Jodie Foster.
Taxi Driver.
Non. Ah oui, c'est... Non, pas Taxi Driver. Genre Bugsy Malone.
Ah.
Tu l'as pas, Bugsy Malone?
Ah, si, mais c'est avant ça.
Ouais.
Il me semble que Bugsy Malone, c'est après Taxi Driver.
Moi, j'avais vu que c'était Taxi Driver.
Taxi Driver,
premier,
c'est dans les années 70.
Ah, et Bugsy Malone, 74. Et Bugsy Malone, je crois que c'est les années 80.
C'est plus dans les années 80-90.
Mais... Merde. Attends, on va dire. Ça se trouve, je dis de la
elle
merde.
Elle est pas vieille dedans.
Non, mais je suis presque sûr que c'est le premier rôle de Jodie Foster, Taxi Driver.
Ouais, en tout cas, elle avait 12 ans sur le tournage.
Rôle difficile en plus, parce qu'elle joue une prostituée
à 12 jeune ans, de 12 ans. Et en plus, à l'époque, elle pensait pas qu'elle ferait... Elle n'était pas du tout prévue pour être actrice. Elle avait été vraiment sélectionnée pour ça.
Est-ce que Jodie Foster parle mieux français que nous?
Ouais.
Ouais, je pense. Mais tu sais que son premier film, c'est même pas ça. C'est Napoléon et Samantha.
Alors...
Un film avec Michael Douglas, produit par Walt Disney Pictures.
C'est marrant, ça.
Ah, Bugsy Malone, c'est 76, pardon, excusez-moi.
Ah, 76?
C'est juste après, mais
ah,
en fait...
Je pensais que ça aurait été plus vieux, Bugsy Malone, tu vois.
Son premier film le plus connu, en tout cas, c'est Taxi Driver, alors qu'avant, elle faisait vraiment des films avec Walt Disney, quoi, des films pour les enfants. Ouais. Donc, c'était son premier gros film, on va dire.
Et elle est encore là aujourd'hui.
Bien sûr, actrice, réalisatrice, elle a fait énormément de choses. Et on la connaît notamment pour Le Silence des Agneaux. Christina Ricci.
Famille Adams?
Eh bien...
Il y a un truc avant?
Oui.
Non, c'est Famille Adams.
Famille Adams, elle avait 11 ans.
Waouh.
Donc.
C'est marrant parce que finalement, c'est elle qui joue dans Casper aussi.
Oui.
Donc, elle est vraiment dans des ambiances manoir. Ouais.
Elle avait une grande spécialité meuf chelou, en effet, au début.
J'adore
dans
Christina Ricci.
Moi aussi.
Et d'ailleurs, quand on était à New York récemment avec Guillaume.
Je sais ce que tu veux dire.
Guillaume m'a fait découvrir. Enfin, il avait trouvé
Forlini.
Un restaurant. Exactement. Il avait trouvé sur Internet un restaurant qui, par la suite, est devenu mon restaurant préféré, Guillaume. Vraiment, j'ai jamais été dans un restaurant aussi bien que celui-là.
Eh bien, c'est fermé.
Parce que c'est la déco à l'ancienne d'un restaurant italien, la bouffe était trop bonne et tout. Et quand tu entrais dans le restaurant, il y avait une photo de Christina Ricci avec un petit mot, etc. Parce qu'elle avait l'habitude d'aller là avec ses parents quand elle était enfant. Mmh. Et Forlini's a fermé quelques semaines après notre passage.
Alors de là dire que t'es un chat noir. Après c'est un débat qu'on peut. C'est une question qu'on peut.
En
se
fait,
poser.
On a un débat avec Guillaume depuis des années. C'est qu'on est persuadé que l'autre est le chat noir.
Oui, et en fait lui porte malheur lui.
Non, moi je trouve que Guillaume porte malheur et très souvent on s'est rendu compte que là dernièrement. Regarde, dernière anecdote en date.
Ah bon.
On était à Los Angeles il y a un mois. Et ben qui est-ce qui a une valise qui a lâché à Los Angeles et qui a dû aller le dernier matin tout seul à pied, elle a acheté une grosse valise. C'est pas relou ça, franchement?
C'est casse-couille.
C'est un chat noir.
Oui, bon. Bon, allez.
Oui, merci.
Enchaîne.
Pour le coup, c'était pas la famille Adams. Je me suis planté. En fait, c'est les premiers grands rôles, en fait.
Voilà.
Elle a fait de la figuration sur Mermaids, les deux sirènes.
Oui, mais on la connaît pour
un an avant.
Rôle.
Voilà, tout à fait. Mais c'est la famille Adams. Et ce qui est marrant, c'est que elle joue un rôle dans la série actuelle mercredi.
Ah ouais?
Ouais. Elle joue un autre rôle, la professeure.
Un petit caméo?
Ouais, ouais.
Ok.
Mais en tout cas.
Enfin, pas un caméo, mais.
Oui. En tout cas, il y a un petit clin d'œil sur le fait qu'elle est encore dans la série qui l'a fait connaître. C'est-à-dire la famille Adams. Suivante, Dakota Fanning.
Ah. Little Miss Sunshine.
Non.
Non, c'est pas.
C'est pas elle.
Non.
Somewhere.
Non, c'est sa sœur. C'est après.
Ah, c'est elle, Fanning. Ok, ouais, d'accord.
Je crois.
Attends, Dakota Fanning.
Dakota Fanning, je peux vous dire Tom Cruise des extraterrestres.
Ah, La Guerre des Mondes.
Par exemple. Mais c'est pas le premier film vraiment où on la voit.
Je sais pas, figure-toi.
Men on Fire.
Ah ouais, tiens,
j'aurais jamais
trouvé. C'est
vraiment
le rôle où on l'a découverte. Elle n'avait que 6 ans. Et ensuite, elle n'avait que 10 ans, pardon. Mais le vrai film où on l'a connu, c'est I Am Sam. Vous avez vu ce film?
Non, je n'ai pas vu.
Avec Sean Penn.
Mais c'est vrai qu'il y a donc Dakota Fanning et Elle Fanning, c'est vrai.
Tout à fait. C'est la prochaine que je voulais vous citer. Juste pour vous dire, Dakota Fanning, on l'a vu dans Once Upon a Time in Hollywood. Elle joue une des filles du Manson Clan.
Ouais, okay, d'accord.
Dans le ranch. Et elle joue aussi dans Twilight notamment, mais c'est vrai qu'elle s'est fait connaître avec Men on Fire, Guerre du Monde, mais son premier film c'était I Am Sam avec Sean Penn, elle avait 7 ans.
Okay.
Sa sœur, Elle Fanning, tu l'as dit, s'est fait découvrir surtout en 2011 avec Somewhere et Super 8, la même année.
Okay. Ah oui, Super 8.
Donc elle a tourné
avec Coppola. Elle est incroyable dans Somewhere, je trouve.
C'est vrai. Et ce qui est encore plus fou, donc là elle avait 12-13 ans sur Somewhere et Super 8, mais elle a aussi joué dans I Am Sam, le film dont je parlais justement avec Sean Penn, et elle jouait en fait sa sœur jeune, parce qu'elle avait que 2-3 ans. Donc vu qu'il y avait tout un truc où c'était sa fille, elle a joué sa grande sœur jeune. Et après on l'a revue dans Néon Démon, dans Les Proies de Sofia Coppola, et aussi elle a joué Marie Shelley, et elle a joué La Belle au Bois Dormant dans les deux films maléfiques.
Déjà un très beau CV.
Ouais, c'est incroyable. Emma Watson.
Ah si, je sais, Superbad.
Superbad?
Ouais.
Bah non, Emma Watson. Elle a joué avant dans...
Attends, Emma Watson, elle joue dans Superbad, non?
Bah, elle joue dans Harry Potter, surtout.
Ah non, je confonds avec Emma Stone comme un con. Le premier rôle d'Emma Stone, c'est Superbad. Oui, Emma Watson, ouais. Le premier rôle d'Emma Stone, c'est Superbad.
Ah, j'ai pas noté parce qu'elle était déjà.
Putain, oui, à chaque fois, je confonds Emma Stone et Emma Watson.
Emma Watson, oui, c'est Hermione dans Harry Potter, qui était très jeune, donc. Abigail Breslin.
Oh, je vois pas qui c'est Abigail Breslin.
Tu l'as évoqué tout à l'heure.
Ouais.
T'as évoqué un film qui l'a énormément fait.
Non, mais là, attends, je vais aller voir son visage sur.
Des lunettes, sur quand elle est petite.
Ah bah oui, Little Miss Sunshine.
Ouais, tout à fait, quand elle avait 9 ans, elle a été vraiment découverte.
Et elle continue à percer, elle?
Oui, elle a joué dans les deux Zombieland, elle joue le personnage Little Rock, et il y a très peu de temps, elle a joué dans Stillwater, le film dont on parlait dans un précédent podcast avec Matt Damon et Camille Cotin. Elle joue la fille de Matt Damon qui essaye de sortir de prison.
Camille Cotin de la pub Nescafé.
Exactement, c'est elle. et Abigail Breslin a commencé à 5 ans dans le film Signe en tant que fille de Mel Gibson.
Ok.
Donc vraiment, elle continue à être connue, etc. Scarlett Johansson.
Ah, je sais, Maman, j'ai raté l'avion 4.
Non, elle a fait un film avant.
Ok. Murmurer à l'oreille des chevaux, Robert Redford.
L'homme tout à fait. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.
Il est 22h, j'arrive plus à finir les phrases. Murmurer à l'oreille des chevaux.
En effet, son premier grand rôle, C'était à 14 ans, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. J'en ai plus que trois. Deux, messieurs, trois.
Oui.
Kirsten Dunst. Bah, je sais plus parler.
Jumanji.
Il est 10 heures.
Oui, Jumanji.
Non, il y en a eu avant.
Ah oui?
Eh oui. Où elle n'avait que 12 ans.
Un indice?
Tom Cruise, Brad Pitt.
Ah bah oui, entretien avec un vampire.
Entretien avec un vampire, en effet. Elle n'avait que 12 ans et...
Exact. Et je crois qu'elle embrasse les deux, d'ailleurs.
Oui.
Malgré son jeune âge. Bah oui, je me souviens.
C'est très étrange quand on...
Voilà, bah oui.
C'est les vampires, ils vivent différemment. Ils ont tous 100 ans, en fait.
Oui, c'est l'excuse.
Chloé Moretz.
Chloé Moretz.
Trois films importants quand elle a moins de 15 ans.
Chloé Moretz.
Un qui est très connu, dans lequel elle a un masque et où elle tue des gens avec deux pistolets.
Ah, bien sûr, Kick-Ass.
Tout à fait. Ah, elle a cette époque-là 13 ans, mais il y a aussi un film d'horreur et un film avec Scorsese.
Un film d'horreur.
Ah, le film avec Scorsese, c'est pas celui avec Méliès, là, j'ai oublié le.
Hugo Cabret, en effet, a 11 ans, quelques années avant Kick-Ass. Et elle a joué son tout premier rôle dans Amityville à 7 ans. C'est pas ouf de jouer son premier film, c'est des films d'horreur.
Bah, Amityville.
À 7 piges.
J'imagine que tu parles du remake avec Ryan Reynolds, produit par Michael Bay.
Ouais, c'est ça.
Et bien, un film dans lequel Guillaume Delouche, notre invité du jour, a travaillé.
Ah, oui. Bah voilà.
Et ben, tout ce rejoint. Film, il a bossé sur Amityville.
Et
n'est-ce pas, Guillaume? Ah, bah non, il n'est plus là, c'était au téléphone. On n'est pas en connexion directe.
Oui.
Et pour finir, Hailee Steinfeld.
Attends, comment?
Alors, attends, rappelle-moi qui c'est ça.
Hailee Steinfeld.
Je vois pas qui c'est.
Je vois plus sa tête.
C'est une actrice qui, il n'y a pas longtemps, a joué. Il va être la prochaine Œil de Faucon. Hawkeye, dans la série.
Je vois
elle
toujours pas
de quoi
tu parles.
Elle a joué aussi dans. La stratégie Ender.
Je comprends rien ce que tu dis, t'as un démo en fait.
Okay. Elle a commencé dans True Grit. Vous vous rappelez la True Grit?
Voilà. Avec Jeff Bridges, des frères Cohen.
Exactement. Et bah, c'est la jeune protégée de Matt Damon.
Une des pires scènes de show de l'histoire du cinéma.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Bah, c'était super ce jeu, j'ai adoré.
Toutes les actrices de l'époque. Des fois, c'était pas tout leur premier film. Hein. Ne nous envoyez pas. Non, c'était pas le premier film.
Ah, mais ça, ils vont l'envoyer, attention.
C'était les premiers grands rôles. Voilà. Ouais, j'ai vérifié, il y avait des fois des apparitions dans d'autres films. Donc, vous tirez pas dessus.
C'était les premiers films.
Alors. C'est pas ça, à 3 ans, elle a fait une apparition dans une pub. Mm-hmm. Ok, super, merci. Alors,
sur cette table, pendant que tu nous racontes tout ça, il y a des cacahuètes et Guillaume a une théorie sur les cacahuètes. C'est quoi ta théorie?
C'est une véritable drogue.
C'est comme une drogue. C'est-à-dire que tu prends une petite poignée de cacahuètes. Et après, tu finis le paquet.
Tu peux
c'est
pas
ça,
t'arrêter.
Hein. Mais c'est dingue, hein.
Ah ouais. Hein.
Mais ben voilà, c'est la petite parenthèse.
C'était ma théorie sur les cacahuètes.
Ma théorie sur les cacahuètes de Guillaume, vous l'avez maintenant.
Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui. Ben, si vous êtes pareil que lui, c'est un sacré point commun, non? Il est en train de manger, là. Il est en train de... Vous le voyez pas, mais il se régale de cacahuètes. Oh. Oui, bah oui. Alors, dites-moi, les gars.
Ah. Oui.
Je vais pas passer par quatre chemins, donnez-moi un truc qui croustille.
Les cacahuètes.
Les cacahuètes, Aurélien?
Oui.
Un truc qui croustille.
Les tucs.
Le sable.
Allez, là. Ça croustille pas du tout, parce que c'est bouffe du sable.
La fatigue. Un truc qui croustille. Le sable.
Bon, voilà,
le sable.
Les cacahuètes et le sable. J'avais plus l'idée pour lancer cette rubrique.
Vous avez jamais bouffé du sable?
Non, c'est bien, c'est bien.
Ouais, voilà. il leur prend des cacahuètes, mais c'est une drogue. Régale. Mais ils s'en régalent, regardez.
Il reste des Ferrero, les gars.
Alors, vous savez que j'avais lu un jour c'est plus du tout un podcast sur Lyon, hein. Et d'ailleurs, heureusement que Guillaume Delouche et Christophe Maratier, là, sont en off pour l'instant, parce qu'ils auraient pas aimé écouter cette anecdote. Il est à Los Angeles, il va pas se casser le cul à écouter cette anecdote de cacahuètes. Mais j'avais lu qu'apparemment, dans les bistrots, le truc le plus contaminé au monde, c'est les cacahuètes, parce qu'il y a des particules de pisse et tout, parce que tout le monde met ses mains dedans pour en prendre. C'est les pires trucs.
Évidemment.
Bah voilà, mais faut pas manger les cacahuètes.
Mais même
des
tous les trucs de dégustation dans les supermarchés et tout, faut jamais.
Je fais jamais ça. C'est dégueulasse. Jamais je.
C'est dégueulasse.
Écoutez, c'est le dernier We Love TFTC, on a le droit d'aborder tous les sujets.
Allez, c'est bon.
Il y a un sujet qui vous tient à cœur que vous voulez aborder, là, c'est le dernier épisode We Love TFTC.
Alors,
il y a un sujet qu'on a vu juste avant.
Ça fait 50 épisodes qu'on en parle plus ou moins, qu'on en rigole, etc. C'est le dernier épisode, je me permets de le dire. Je te défonce à Marie. Non, mais qu'on soit sûr. Comme ça, c'est le dernier, c'est scellé.
Tiens, les gars, je vais raconter une petite anecdote que j'aime bien. Il y a quelques années, on était ensemble à Montréal et on était allé dans un bar. Alors, si vous êtes à Montréal ou si vous comptez aller à Montréal, allez dans un bar. C'est un pote à moi, un des potes à moi qui gère ça, qui s'appelle Eric Hébert. Et en fait, il a une sorte de bar comme ça qui s'appelle Arcane Montréal. T'en souviens, Guillaume? En fait, c'est un bar trop cool. Où en gros, tu vas là-bas et puis tu joues à des. Il y a plein de bars d'arcade, etc. Et tout. Et Guillaume m'avait dit. Ah, moi, je suis le meilleur à Street Fighter. Personne me défonce. Jamais personne m'a défoncé. Et ben, je t'ai défoncé à Street Fighter. Au moins trois matchs différents. Voilà,
écoutez,
ce qui s'est passé.
Écoutez bien ma voix. Écoutez comment il vient de m'imiter. Comme ça, vous voyez à quel point il ment. Non, je parle vraiment comme tu viens de faire, là.
Côté surexcité, oui.
Vas-y, fais-le.
Moi, je suis le meilleur à Street Fighter. Je vais dire que je suis fort à Street Fighter.
Et il y a un truc aussi qui est pas mal. C'est que t'étais très énervé d'ailleurs le jour où je t'ai raconté ça, je sais pas si t'en souviens. Mais
j'étais oui, je sais que tu vas dire.
J'étais à Montréal tout seul, toi t'étais pas là.
Je défends ça, champion.
Non mais attends, j'étais à Montréal et t'étais pas là quand j'étais.
Comme par hasard, il y avait personne que personne peut juger.
Mais j'avais des vidéos, tu rigoles ou quoi? 2018. Il y a un tournoi qui est organisé à Arcade Montréal avec tous les boss de Mario Kart sur Super Nintendo. Je m'inscris. Eh ben, on était au moins une quarantaine. J'ai fini deuxième.
Super.
J'ai fini deuxième. C'est-à-dire que je suis médaille d'argent au Québec de Mario Kart Super Nintendo
au Québec.
C'est honteux ce qu'on écoute.
Ah ouais, c'est honteux.
Et dis-nous tes anecdotes croustillantes quand on finit.
Bah ça, c'est croustillant. Hey, petite info tabienne sur moi-même. Je suis médaille d'argent au Québec sur Mario Kart. Bah, il faut le dire quand même.
Et on n'a jamais joué avec toi à Mario Kart.
Ah, bon, c'est vrai.
T'es bon, Aurélien, à Mario Kart?
Bon, je pense que je le défonce.
Bon, je suis pas sûr. Par contre, un jour, alors on joue souvent avec Guillaume, mais un jour on avait tapé Skills Mario Kart Super Nintendo sur YouTube. Il y avait un gars qui prenait Donkey Kong et ouais. Et Bowser, je sais pas si tu te rappelles.
Ouais.
C'était impressionnant. Ouais. Et là on s'est dit on est nul à chier.
Nous.
Bien sûr. c'est parti pour les anecdotes croustillantes.
Ouais.
Léon paraît un peu benêt dans le film, n'est-ce pas? Eh bien figurez-vous que c'est lui qui a suggéré ça à Luc Besson. Jean Reno pensait que ça adoucirait son duo avec Nathalie Portman à l'écran d'être un peu plus benêt. Voilà.
Bravo.
Parce que je pense qu'il disait que si j'en fais un gars un peu immature, il y aura pas un truc un peu chelou de un mec avec une mineure de 12 ans et tout, tu vois.
Bah ouais. Déjà en le voyant avec un œil d'adulte, je trouve ça un peu sexualisé.
Bien
quand même.
Sûr, bien sûr. Quand ils se déguisent en Marilyn Monroe.
Ouais, t'es là.
C'est vrai. Et ben figure-toi que j'ai lu aussi un truc que là j'ai pas mis dans les anecdotes croustillantes. Dans le script original, il y avait une scène durant laquelle Jean Reno ouvre la porte de la salle de bain et il voit Nathalie Portman à poil.
Oh non.
Où on voit ses seins et tout machin, et en fait t'as Jean Reno qui est hyper gêné et qui lui jette une serviette. Cette scène devait exister, sauf que les parents de Nathalie Portman ont dit
Tu sais qu'après Nathalie Portman, elle avait donné une interview qu'après ce film, après c'était l'enfer pour elle, qu'elle avait reçu plein de lettres de gros perfs, quoi, tout simplement,
de gros
des pervers,
perfs, quoi. Ok, d'accord.
Ouais.
Dont Aurélien qui avait 13 ans et qui l'adorait à l'époque.
Allez, c'est le dernier.
Ah, bon. Bon âge, merde.
Ouais, tu peux le dire.
Allez, hop, c'est horrible. Non, mais j'ai trouvé ça un peu gênant. Il y a des moments où je suis là,
Mais je vois ce que tu veux dire. Gary Oldman, qui est incroyable dans le film, donc, a improvisé une bonne dizaine de répliques qui ont été gardées dans le film, dont la célèbre Bring me everyone. En français, c'est genre, apportez-moi tout le monde quand il veut vraiment défoncer Léon, etc.
Ouais.
Ça, c'était improvisé par Gary Oldman.
Quel acteur?
Bah, lui, il est sublime. Hein. Incroyable,
très, très fort, Gary Oldman.
Nathalie Portman avait donc 11 ans sur le tournage et pour les scènes durant lesquelles elle devait pleurer, elle n'y arrivait pas. Alors l'équipe lui mettait dans les yeux des sprays de menthe. Apparemment, ça faisait tellement mal que Nathalie Portman pleurait de douleur.
Bah tu m'étonnes.
Ça peut être de la torture en fait.
Bah c'est pour ça qu'elle pleurait.
Mais tu m'étonnes, ça va pas ou quoi?
Bah écoute, qu'est-ce que je te dise?
Bah c'est
un malade. Bah t'es choqué, écoute. Nathalie Portman qui a d'ailleurs battu 2000 autres jeunes actrices pour avoir le rôle, 2000 parmi elles. Liv Tyler, et t'en parlais juste avant Aurélien, Christina Ricci.
Ah!
En vrai, Ricci, ça aurait marché, je trouve, dans le rôle.
Ouais.
Vous trouvez pas que dans le film, Maïwenn, elle a un rôle vraiment parce qu'il sortait avec elle?
Maïwenn?
Elle est au début du film.
Eh bien, écoute.
Elle est au début du film.
Ah, j'ai pas.
Eh bien, écoute, je vais te dire un truc. Parce que
je la mets du méchant.
Je l'ai pas mis dans les anecdotes, mais je vais te la balancer comme ça en plus.
Ah.
Maïwenn Lobesco a dit, donc, qu'il sortait effectivement avec Guillaume à l'époque avec Luc Besson. Maïwenn a confié dans un interview, alors ça n'a pas été confirmé par Luc Besson, mais elle a dit que Besson s'était inspiré de sa relation avec Maïwenn pour créer la relation Nathalie Portman-Jean Reno. Comme quoi, il y avait un truc un peu bizarre. Parce qu'il y a une grosse différence d'âge entre Maïwenn et Luc Besson.
Bah, Luc Besson, il sortit avec elle quand elle avait 15 ans.
Bah voilà. Et donc, apparemment, il se serait inspiré de leur relation.
Mais tu vois, elle est au début du film, mais elle parle quasiment pas et elle fait la meuf du méchant au tout début du film.
Ouais.
Et après, c'est tout. Elle reste deux secondes et après, elle se barre. Elle meurt pas, elle fait rien.
Et d'ailleurs, Maïwenn Lobesco qui joue la célèbre cantatrice dans le cinquième élément.
Elle a quand même une grosse carrière de réalisatrice et
Exactement. On reste un peu avec Nathalie Portman puisque ses parents étaient constamment présents sur le tournage. Un contrat avait particulièrement été signé en amont en ce qui concerne les scènes avec les cigarettes. C'est-à-dire que les parents avaient signé dans le contrat une clause qui indiquait que Portman ne devait fumer que dans 5 scènes seulement et pas plus. Et ils étaient là sur le plateau parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'elle inhale la fumée. Enfin, fallait qu'elle fake le fait de fumer. Et en fait, ils étaient hyper attentifs au fait qu'il fallait pas qu'elle avale la fumée, en fait. Donc, les parents étaient là, genre, attention. Voilà ce que faisaient les parents de Nathalie Portman.
Elle peut jouer dans un film hyper sexualisé, mais alors, par contre, les clopes!
Ouais. Non, mais en plus, Nathalie Portman, elle a une, elle a fait des super études, ses parents ils étaient hyper stylés, ouais, etc. Donc il y a vraiment un truc où ils voulaient pas que leur fille fasse n'importe quoi, quoi. Petit cocorico, puisque toutes les scènes d'intérieur ont pratiquement été tournées à Paris, et ça, Christophe le disait tout à l'heure, je l'ignorais, donc apparemment ça a été tourné à Épinay, même ça je savais pas, les scènes en extérieur à New York évidemment, mais effectivement la majeure partie du film a été tournée à Paris, enfin en banlieue parisienne,
et ça, genre,
on a l'impression que tout est fait à New York, quoi, tu vois, wow. Parce que quand tu vois les appartements et tout, tu te dis bah c'est des appartements new-yorkais, quoi, ça c'est ouf. Enfin, j'imagine que pour certaines scènes c'était des appartements new-yorkais, mais en tout cas les scènes d'intérieur dans l'appartement c'est à Épinay.
Là, on reparlait de l'intro et tout. Je me rappelle, tu sais, quand il y a les trous de balles et que ça fait des lumières un peu spéciales, là. C'était génial.
Génial.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Mais je me dis, en fait, ça a été tourné à Épinay, en fait. Donc, je me dis, putain, c'est incroyable.
Et aussi, Jean Reno, grande forme, quand même. Je regardais l'âge qu'il avait quand il l'a fait. Il avait 46 ans.
Ah ouais?
Quoi? Il est plus en forme que nous. Hein.
Bah oui, parce que moi, quand tu vois mon bide et tous les ferrots que je m'enchaîne depuis tout à l'heure...
Parce que toi,
et toi avec toutes tes
la scène où il tient en haut, là, sur le plafond, et après, il a juste à se baisser et il se relève, personne ne sait le faire ici.
Bah non.
Bah non, effectivement.
Alors, ce rôle était destiné à Jean Reno, puisqu'il reprend plus ou moins son perso de Nikita. Le problème, c'est que les producteurs étaient pas très chauds à l'idée de confier le rôle principal à un Français inconnu pour eux. Mel Gibson et Keanu Reeves avaient lu le script et étaient tous les deux méga chauds pour jouer le perso de Léon. Mmh. Sauf que Luc Besson n'a rien lâché, et c'est bel et bien Jean Reno qui a eu le rôle.
Bravo.
Mel Gibson ou Keanu Reeves? Ça aurait pu marcher aussi. Mais bon, on associe tellement ça à Jean Reno maintenant.
Plus Keanu Reeves, je trouve, non?
Ah ouais? Ah, moi, j'aurais plus vu Mel Gibson, pour
le coup. Ouais, Mel Gibson. Ouais.
Dans le délire, tu sais, bah, c'est un peu John Wick, il est un peu bizarre, il parle pas trop, c'est un peu le même délire.
Bah, on comprend pas s'il est gentil ou méchant pendant longtemps.
Mais tu vois, maintenant, il y a quand même ce truc où ça fait toujours pareil. Quand tu vois un film qui a marché, tu peux pas imaginer quelqu'un d'autre, tu vois. C'est Jean Reno, et puis voilà, c'est tout. Alors, on connaît le prénom de Léon, mais on ne connaît pas son nom. C'est quoi le nom de Léon? Eh bah ouais.
Léon Bruxelles.
Eh bah ouais. Non, c'est... Oh bah non, Aurélien. C'est pas Léon Bruxelles, pas du tout. Ça, c'est un restaurant. En exclusivité mondiale, je vais vous donner son nom de famille. Puisque j'ai eu accès au tout premier script écrit par Luc Besson. Je suis journaliste. J'ai ma carte de presse. J'ai fait des recherches.
Faux.
Eh bien, figurez-vous que dans le premier script, Léon s'appelle Léon Montana.
Montana?
Montana.
Ouais, bah, ah ouais, Léon, ça va mieux pour lui.
Bah, c'est Léon Montana.
C'est le frère de Tony, quoi.
Et d'ailleurs, même son premier nom dans le script, c'est pas Léon Montana, c'est Léon et Montana. Oh, avec un E à la fin de Léon.
Non, non, non.
Bah non, bah c'est ce qu'a écrit Luc Besson, arrêtez.
Non.
Faites pas comme les gars sur Twitter qui disent c'est faux, c'est pas vrai. J'ai lu le premier script, s'appelle Léon et Montana. Voilà son nom à Léon.
Cotura 10 minuti.
Cotura 10 minuti. Parfois, quand on se fait des pâtes avec Guillaume, on s'envoie juste, on s'envoie juste une vidéo de nous qui mettons les pâtes dans la casserole avec marqué Cotura 10 minuti. Voilà ce qu'on fait.
C'est triste, hein?
C'est triste, mais j'aime bien.
Moi aussi. C'est croustillant comme du sable.
Oui, c'est vrai, ça. Info incroyable que j'ai appris en travaillant sur l'épisode. Sami Nasseri. Ah, bah, tiens, bah, c'est le truc qu'a raconté Christophe Maratta tout à l'heure. Sami Nasseri joue dans Léon, il joue un officier du SWAT.
Il
est quand même resté 10 jours sur le tournage.
Avec une cagoule.
Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est suite à cette expérience que Luc Besson décida de lui confier le rôle dans Taxi.
C'est fort.
Et enfin, pour terminer, le groupe Alt-J a sorti une chanson intitulée Mathilda, en hommage au perso de Nathalie Portman dans le film.
Ah.
Extrait. This is from Mathilda. Voilà, c'est bientôt la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que nos invités ont consommé culturellement ces dernières semaines. On va le faire à tour de rôle, je vais commencer avec Guillaume. Guillaume, le dernier film que tu as vu au cinéma?
Smile.
Smile, ok, le film d'horreur. T'as aimé?
Voilà. Bah, c'est pour mes gamines, elles adorent les films d'horreur, donc je les emmène voir des films d'horreur et elles ont adoré.
Ah, cool. Christophe, le dernier film que t'es allé voir au ciné?
Le dernier Star Wars.
Alors, t'as aimé?
Ah, oh bah, j'ai adoré, ouais.
Très bien. Le dernier film que vous avez vu via une plateforme, Guillaume, que ce soit Netflix ou peu importe?
C'est pas un film, parce que je suis toujours en retard, j'ai jamais le temps de rien faire, mais là, comme on est un peu en vacances, j'ai recommencé à regarder White Lotus. C'est formidable.
Comment t'as dit, pardon?
White Lotus. Sur HBO.
Ah, White Lotus.
White okay. Lotus, sur HBO, HBO Max. Si vous avez ça chez vous, je recommande.
Très bien. Christophe, le dernier film que t'as vu sur une plateforme?
Alors, le dernier, c'est Rogue Heroes, la formation des SAS sur Canal+.
Ok, cool. Guillaume, la dernière série que tu as regardée
fait par l'équipe de Peaky Blinders, par le showrunner de Peaky Blinders.
Ok, cool. Guillaume, la dernière série que tu as regardée
c'est White Lotus, c'est une mini-série, c'est la même chose.
Ok, cool. Christophe, la dernière série que tu as regardée
Moi, pareil, Rogue Hero, c'est une série en plusieurs épisodes, on en est au sixième. Là.
Ok, cool.
Ça, voilà.
Guillaume, ça va être un peu technique, la dernière chanson que tu as écoutée
La dernière chanson que j'ai écoutée. Alors là, la dernière chanson que j'ai écoutée, je crois que ça doit être... Hier soir, on a mis Miles Davis pour dîner. Ça devait être Sketches of Spain, je crois. Miles Davis l'a mis ça sur Alexa. Alexa, play Miles Davis.
Super. Christophe, là, t'es dans la voiture. Est-ce que t'as écouté de la musique? La dernière chanson que t'as écoutée?
La dernière chanson que j'ai écoutée, c'est facile. Regarde, je vais sur Cobus. Regarde, c'est When a Fire Starts to Burn de Disclosure.
Oh, super. Wow. Oh, génial. Voilà. J'adore cette chanson. Super. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to... When a fire starts to... Guillaume, le dernier livre que tu as lu
Je suis en train de lire le livre Morgue d'Eric Koenig. C'est l'histoire de la morgue de Paris. Et en même temps, je lis le livre Butcher and the Wren. C'est par Elena Urquhart. C'est une fille qui fait également les autopsies. Je recherche un petit peu. C'est des bouquins un peu historiques. Et sur des... J'ai eu plusieurs fois à faire des scènes d'autopsie. Et donc, c'est un truc qui est intéressant. Donc, voilà. Donc, sur l'historique de la morgue de Paris, qui est quand même qui a beaucoup bougé. Un livre hyper intéressant. Je recommence un vieux livre, mais on trouve encore.
Très bien. Christophe, le dernier livre que tu as lu?
Celui que je suis en train de lire, c'est un bouquin sur Ventura qui s'appelle Bouffe, Dialogue et je ne sais plus quoi, que m'a offert ma maman, où il raconte plein d'anecdotes sur les comment il a fait les films, ce qu'il a rencontré et les dîners qu'il a organisés.
Parfait, génial, trop bien. C'est donc la fin de ce podcast. Christophe et Guillaume, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu? On va commencer avec Guillaume. Là, tu viens de finir donc un film qui s'appelle Night Beach, d'ailleurs, quand on était à Los Angeles. T'avais eu la gentillesse, moi qui collectionne des props, t'avais eu la gentillesse de me donner la petite pancarte qu'on utilise quand on doit aller sur le parking pour le tournage, qui trône fièrement dans mon bureau maintenant. Tu m'avais aussi donné une petite guêpe qui avait été utilisée sur Bumblebee, un petit dessin de guêpe qui devait servir sur le rétroviseur. Donc j'ai tout ça dans mon bureau, je suis ravi. Là, tu travailles sur quel film bientôt? Quels sont tes projets?
Alors là, on prépare un film qui s'appelle Wolves. C'est réalisé par John Watts, le réalisateur des trois derniers Spider-Man. Et c'est avec Brad Pitt et George Clooney. C'est un film noir, un film de gangster. Et on tourne ça à New York et à Los Angeles. Et puis après, on va peut-être faire un autre très, 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 très gros film dont je peux pas parler maintenant, mais ça sera très, 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 très gros.
Très bien. On n'en doute pas un seul instant, Guillaume.
Oui, aucun doute.
Christophe, t'es sur quel projet en ce moment? Quel est ton actu?
On en fait pas mal. Moi, comme j'ai une entreprise, je suis fournisseur, je participe à de nombreux tournages en tant que fournisseur. Et ensuite, sur les plateaux, en ce moment, on est en train de faire en France, on fait Anti-Gang numéro 2. Mm-hmm. On prépare Le Salaire de la Peur de Julien Leclerc, un remake du Salaire de la Peur.
Trop bien.
Qu'on va tourner en France et au Maroc. Pour les États-Unis, on fait une série américaine qui s'appelle Lioness. Enfin, le projet de tournage, en tout cas, s'appelle Lioness. Et c'est un gros truc, on envoie plein de matériel. Et puis, on a terminé, il n'y a pas très longtemps, le prochain film de Luc Besson qui va s'appeler Dogman, qui est un beau projet, un très beau film. Il semble que tout le monde est très content du projet, donc on attend ça avec impatience. Et puis j'en oublie plein parce qu'effectivement on est en train de travailler sur plein de choses en même temps. On a terminé Les Mousquetaires, On travaille sur la série des Walking Dead. On a fait Christian Dior, la série sur Christian Dior. On a fait la série sur Benjamin Franklin également. Enfin, pas mal de choses qui sont en train de, bah, de se terminer pour les fêtes de Noël et puis qui vont reprendre en janvier sur les chapeaux de roue.
Bah, trop bien. Guillaume et Christophe, c'était un réel privilège de vous écouter. On est ravis de vous avoir eu dans le podcast. On est là avec Guillaume Aurélien, ouais, on écoute vos histoires. On adore écouter vos histoires. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite des projets. Et bah, on se retrouvera très vite. Merci à vous d'avoir été disponible.
Bah, avec plaisir, merci. À bientôt.
À bientôt, Guillaume.
Salut, Christophe. Guillaume. On s'appelle vite, Guillaume.
Salut.
Je t'embrasse.
Ok, à plus, Christophe. Salut. Merci.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Léon. Et merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser ce podcast. Merci à toute l'équipe. On vous tient au courant. À très bientôt. Bye. Eh, dites au revoir, les gars. C'est la dernière.
Ah, bah, allez, au revoir, alors.
Salut. Merci pour tout. C'est génial. Tout le monde.
On vous adore. Salut. Allez.
Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas.
Hey Orlando, tired of battling the mighty pollen? We've got your back. Aspire Allergy and Sinus offers lasting allergy relief so you can chuck those temporary fixes and savor that sweet, sweet taste of victory over pollen. With same-day results and tailor-made treatment plans, we've turned the tables on allergies. Aspire patients enjoy relief that lasts for years. Schedule your appointment today at aspireallergy.com. Turn your daily sneeze-a-thon into a breeze with Aspire Allergy and Sinus. Go to aspireallergy.com.